Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission présentée par Eladji Makalou. Pour la dernière cette saison, j'espère que vous êtes bien installés et bien évidemment on va parler de football, on va parler du Paris Saint-Germain qui sont amusés, hein, on peut le dire, hein, 4-0 face à l'équipe de Lionel Messi et on a pu voir aussi le Bayern s'imposer face à Flamengo et Bayern Paris SG. En fait, toutes les équipes contre qui le Paris Saint-Germain n'ont pas joué en Champions, là, ils pourront les rencontrer, notamment dans leur partie de tableau. Il y a le Real Madrid aussi, il y a la Juve. Voilà, ce sont, en tout cas, ça arrive. Voilà. Après, le spectacle laisse à désirer. Je pense que c'est ce que vous allez me dire, hein, avec le changement de température, le climat qui fait que les matchs sont interrompus à plusieurs reprises. Bon, on va présenter tout simplement nos chroniqueurs autour de la table. Comment ça va, Alexandre ? Toi, tu n'as pas bougé ?
Non, je n'ai pas bougé. Ça va très bien, et toi ?
Ça va, super. Et comment ça va, Salson ?
Nickel, nickel, hein, ça va et toi ?
Ça va, très bien. Jason, ton équipe joue là, dans
ouais,
moins de 30 minutes.
Dans quelques instants là. Ouais.
Dans quelques instants là.
Bonsoir à tout le monde.
Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, ça va. Tu t'es remis depuis. Ça va ?
Oh, on s'en remet jamais trop. Hein.
Ah oui.
Les Parisiens en font trop.
Les Parisiens en font trop.
Ah ouais.
Ah ouais. Tu trouves ? Parce que franchement, moi je me disais là, il y a des moments où je suis posé comme ça, je me dis non, finalement, on n'en fait pas assez. Hein. Les Parisiens n'en font pas assez.
Je
me dis 5-0, un score jamais inédit. Et,
Après, c'est parce que Paris reste constant, en fait. Comme là, j'ai l'impression que Paris soit invincible. Donc, là,
Botafogo les ont battus.
Oui, là, mais les gens ont carrément... l'équipe de Botafogo, ça commence à dire « Ah, oh, c'est l'équipe B, da-da-da, tu connais ?»
Carrément, carrément, John Textor, le cowboy, s'est imposé et vient de licencier son coach aussi du Botafogo. Alors qu'il avait fait un gros câlin juste après la victoire face au Paris Saint-Germain. Et là, je pense que ce qu'il lui a pris avec Lyon, et il a démissionné aussi du côté de Lyon. Mais on va y revenir, ouais. Bien évidemment, de tout ça. On va commencer tout simplement avec la Ligue 1. La Ligue 1 est terminée. Mais on va commencer avec nos... On va commencer un peu avec ce qui se passe au niveau de Lyon et la DNCG Lyon qui sont officiellement relégués en Ligue 2. Pour l'instant, en tout cas, Lyon qui vont sûrement faire appel. Mais pour le moment, Lyon sont officiellement relégués en Ligue 2 avec une mauvaise gestion devant le DNCG. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, franchement, quand j'ai appris ça, j'étais choqué. J'étais choqué et puis je me suis dit, vas-y, ça va faire la même chose que Bordeaux et Saint-Etienne. Mais déjà, il y en a qui parlaient d'un derby de Saint-Etienne-Lyon en Ligue 2, ça m'a fait rire. Mais c'est, en fait, là, je rigole, mais c'est pas drôle, en fait, finalement, pour le football français. C'est un peu, serait le derby de la honte. C'est honteux qu'un club comme l'Olympique Lyonnais, qui, je le rappelle, la décennie précédente, enfin, deux décennies d'avant, était quand même 7 fois champion de France d'affilée. Donc, c'est un énorme monument du foot français qui était pendant un temps meilleur centre de formation de France, voire d'Europe. Qui a formé des joueurs, on n'en passe même plus, on n'en parle même plus. Franchement, je veux dire, c'est, quand j'ai appris ça, j'étais extrêmement surpris, mais j'ai envie de dire, finalement, ça leur pendait au nez. Parce que si on se renseignait vraiment sur le sujet, on voyait que Lyon avait des gros problèmes financiers et que cette histoire de la multipropriété, ça, un jour, faudra vraiment s'y pencher dans le foot. Mais c'est que c'est un problème... c'est les Américains qui sont venus un petit peu ramener ça, mais c'est un problème qui est plutôt compliqué. Parce que... sans rentrer dans les détails, mais quand on voit que des fois, ils faisaient des ventes pour Botafogo, au final, la vente, au lieu d'aller dans les caisses de Botafogo, aller dans les caisses de l'Olympique Lyonnais pour enflouer les caisses parce que ça n'allait pas. Il a vendu Crystal Palace, il pensait que ça allait marcher. En fait, c'est vraiment, on était face à quelqu'un qui, finalement, avait aucune connaissance du marché français, aucune connaissance du marché du foot, en tout cas en France. Et qui.
Parce
qui
qu'avec était, Botafogo, qui en tout cas, il s'y plaît. Hein. Avec Botafogo, il s'y plaît.
Il a l'air
et
de s'y plaire,
fait,
ouais, mais parce que c'est des marchés différents et c'est une façon de vivre le foot différente et que c'est des enjeux économiques qui sont différents. Mais en vérité, finalement, on a affaire à quelqu'un qui était plutôt incompétent, en fait, depuis le début.
Ok, merci Alexandre. Salson, est-ce que tu en penses pas moins de ce qu'Alexandre vient de dire, hein? On rappelle que Textor a démissionné et c'est une dame qui va le remplacer, hein, Michelle Kang, nommée présidente de l'Olympique lyonnais. Quand même, on a vu les supporters lyonnais scander devant le stade de Lyon le départ de John Textor. Ils ont eu gain de cause puisque John Textor a démissionné et on voit là Michelle Kang, je sais pas du tout, j'ai jamais entendu son prénom, mais voilà, en tout cas c'est elle la nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que t'en penses?
Qu'est-ce que j'en pense? Déjà que quand on a appris que Lyon allait descendre en Ligue 2, déjà c'était un peu, même si on n'est pas, je suis pas un grand fan de l'Olympique Lyonnais, mais ça reste quand même un club historique et je rejoins Alexandre sur tout ce qu'il a dit. Après, il y a eu une mauvaise gestion de la part du John Textor. Il est un peu à gauche, à droite. Et, bon, je ne veux même pas savoir ce qu'il fait. Après, là, selon là, après de ce que j'ai pu me renseigner, c'est sa remplaçante. Apparemment, c'est sa voisine en Floride. Donc, il l'a placée là, du coup, à la tête de l'Olympique Lyonnais. Mais je pense que c'est une démission officiellement. Juste, c'est même pas officieusement. Je pense qu'il a encore la main là-dessus. C'est juste que voilà, il enlève son nom de l'Olympique de Lyonnais, mais il sera toujours derrière, logiquement. Après, je ne sais même pas quoi dire. Hein. C'est juste triste. Et voilà, c'est le travail de Michel Aulas qui est. J'ai l'impression de voir le travail de Michel Aulas qui est à l'eau un petit peu. Ça, l'Olympique Lyonnais, comme je viens de dire, c'est un club historique. Voilà, on ne peut pas les voir en Ligue 2. Même si on ne les aime pas, on préfère qu'ils soient en Ligue 1. C'est toujours plus intéressant. Après, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Mais bon, je pense qu'ils vont s'en sortir. Ça reste l'Olympique de Lyonnais. Ils vont avoir. Pour moi, ils seront en Ligue 1 encore, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. En plus, ils sont en Ligue Europa, je crois que l'UEFA, ils ont accepté leur dossier. Donc la Ligue 1, ça va se faire. Hein. Là, ils sont en train de magouiller, de trouver des micmacs, la solution va être trouvée. Hein. Ça reste l'Olympique de Lyonnais. Si tout le monde commence à aller en Ligue 2, comme les Girondins de Bordeaux, Le Mans ou autres, les clubs historiques là, qui se retrouvent tout en bas, si ça attrape Lyon aussi, là, on ne va plus s'en sortir.
Merci, Salson. Jason, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de tout ça?
J'espère que Lyon n'ira pas en Ligue 2 parce que ça atteindrait le football français. Un club historique comme ça, une grosse équipe, une grosse écurie de la Ligue 1, ne peut pas se permettre de descendre en Ligue 2. Après, Textor a fait beaucoup de magouilles et on a pu le remarquer, hein, ces magouilles n'ont pas fonctionné ici. Ils ont plutôt fonctionné au Brésil, entre ces transferts du Brésil, par exemple, de petits joueurs qui circulaient entre Molenbeek, qui allaient au Brésil, tous des micmacs qu'on ne comprend pas forcément, même entre le transfert de Almada, on dit que l'argent n'a pas été donné. Oh, c'est tout un micmac très compliqué. Et donc, c'est pas plus mal qu'il soit écarté. Donc, après lui, j'ai vu qu'il a eu une interview dans les médias brésiliens, là où il s'exprime beaucoup. En France, il ne s'exprime pas autant qu'au Brésil. Il a choisi sa préférence, hein, pour Botafogo. De toute façon, on le voit bien, même comme mes collègues ont dit, il y met un peu plus de cœur là-bas. Donc, il s'est livré. Il a dit comme quoi il n'arrivait pas à s'adapter au système français et que, en gros, sa mission a été réussie au Brésil. Ouais. Mais c'est un personnage dur à cerner. Hein. Franchement, c'est très compliqué à cerner. Mais j'espère juste que Lyon ne descendra pas parce que déjà qu'il a vendu OL féminin, il commence à tout vendre pour essayer de rattraper la chose. Mais bon, le centre de formation, il est à l'arrêt. Alors que Lyon est réputé pour avoir un gros centre de formation, là, il n'y a plus grand monde qui sort. Donc vite que Lyon remonte la pente. Et en espérant qu'ils ne descendent pas du tout.
On espère en tout cas. Merci Jason. Du coup, là, ça les met quand même dans une position pas très favorable. Hein. Cette équipe lyonnaise, hein. On a vu Alexandre Lacazette qui va signer son contrat du côté du Golfe en Arabie Saoudite. On voit donc Miko Tadze apparemment qui commence à être sur le marché. 25 millions, ça parle dans ces alentours-là. On a pu voir des clubs comme Francfort, Nottingham Forest être intéressés par Miko Tadze. Quelle serait la solution là pour l'Olympique Lyonnais, en sachant que on a vu Nasser El Khelaifi donner 45 millions, les 45 millions de Bradley Barcola en avance avec les bonus aussi, il a tout payé en avance. Qu'est-ce que vous en pensez de ce geste déjà et
et de ce que Lyon pourrait faire ou vendre pour équilibrer leur compte.
Bah déjà, de la part de Nasser, c'est bien. C'est, lui-même a conscience, malgré que c'est un club, on va dire, entre guillemets, concurrent du Paris Saint-Germain, de faire ce geste-là, parce qu'il aurait pu ne rien faire et laisser le club couler, mais ce n'est pas dans l'intérêt du championnat, parce qu'il faut que ça soit quand même attractif et que ça attire les gens. Et en question du sportif, ce qui fait peur, c'est que si Lyon vend tout le peu de joueurs qu'ils ont, qui restent encore aptes dans la tactique de Fonseca, même si Lyon reste en Ligue 1 avec une équipe qui n'est pas compétitive, ça va être très, très, très compliqué. Parce qu'on a entendu que même il y avait des départs de Veretout, des joueurs qui étaient non désirés, et des joueurs qui, à la base, ne souhaitaient pas partir, qui vont être sur le marché, comme Malik Fofana. Ça va être très compliqué. Mais Lyon a besoin d'argent, mais si il récupère de l'argent et qu'il ne recrute pas, faire la saison avec la majorité des joueurs du centre de formation, je ne sais pas ce que ça va donner.
Ça va être compliqué en tout cas, mais de vendre tous ces joueurs aussi, ça peut l'être. Hein. Mais on n'imagine pas Miko Tadze en Ligue 2. Hein,
ah non, mais surtout qu'il sera obligé de les brader.
Ouais, aussi.
Et c'est ça.
Bah, c'est pour ça, même 25 millions, moi je trouve qu'il est un peu bradé, non? Ou bien...
Bon, après Miko Tadze, franchement, moi je dirais 25-30, pas plus. Hein. Après, sa saison, elle est pas. Il a fait une bonne saison, mais ça reste correct. C'est pas encore un joueur qui vaut 50 millions, 40 millions.
C'est pas donc, c'est pas indiscutable non plus.
Voilà. Ça reste raisonnable.
Il ne fait pas une saison dégueulasse, mais ouais, je pense qu'il vaut ses 30 millions.
Surtout, sur quoi il devrait prendre de l'argent, c'est sur Fofana. C'est un gros prospect et là, il faut essayer d'en tirer le maximum.
Merci, Jason. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, Salson, toi, tu disais?
Non, je disais, Mika Tosé, là, qui méritait, c'est ce qu'il méritait, 30 millions, une trentaine de millions. Après... pour revenir à l'Olympique de Lyon, moi comme j'ai dit, pour moi ils vont se sauver. Là ils ont reçu un Cherki, je pense qu'ils ont récupéré. Il y a Barcola, la vente de Barcola, ce que Nasser a fait, ça va rééquilibrer les comptes. Et après ils ont juste à peut-être vendre un camp dans les petits joueurs et je pense que ça va rééquilibrer le tout. Et même ils vont trouver, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont trouver des micmacs qui vont réussir à faire quelque chose. Parce que voir l'Olympique de Lyon, ça arrange personne de les voir en Ligue 2, même si on les déteste, comme j'ai dit, ça n'arrange personne. Même surtout pas le PSG. Et comme tu as dit, Nasser en a conscience en plus. Il en a conscience. Et c'est pour ça qu'il a fait ce geste-là. Parce que s'il n'avait pas conscience, il les aurait laissés aller en Ligue de tout droit.
C'est ça.
Merci. On va parler. Il y a Philippe qui va venir nous rejoindre très rapidement dans la cabine. On va parler aussi de Paul Pogba qui signe son retour à l'AS Monaco. Hein. Paul Pogba, les larmes de joie, de joie, un peu de tristesse aussi de Paul Pogba, c'est un mélange de tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ansu Fati, hein, qui va bientôt signer son contrat aussi avec l'AS Monaco. Monaco qui tape fort du poing sur la table, hein, pendant qu'il y en a, ils sont en train de régler leur compte avec la DNCG. Eux, ils sont en train de construire une équipe plus compétitive que jamais pour la saison prochaine, en tout cas. Ils pourront jouer sur pas mal de tableaux en se renforçant de tous ces côtés-là. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Bah, franchement, c'est mine de rien, même si c'est des noms que la planète foot connaît depuis longtemps, c'est des paris. Hein. Ça reste des paris parce que moi franchement, je suis excité à l'idée de voir Pogba revenir sur les terrains et même Ansu Fati. Mais c'est quand même des paris parce que Pogba, ça fait quoi? Ça fait un an et demi, deux ans.
Plus de 2 ans.
2 ans qu'il n'a pas joué. Déjà à la Juve, je regardais ces deux dernières saisons à la Juve, il avait fait quoi? Même pas 15 matchs,
ouais,
même pas.
Beaucoup blessé.
Même pas 15 matchs. Et Ansu Fati, pareil, hein, il a été blessé pendant très longtemps. Au Barça, là, il a fait des matchs qui étaient plus que compliqués. Hansi Flick ne lui donnait pas du tout la confiance. C'est juste en fin de saison où il jouait des 15-20 minutes par-ci par-là. Il a fait un match titulaire en fin de saison, mais sinon, il a quasi pas joué. Donc, ça reste des paris. Par contre, si on me demande du point de vue des joueurs, là, par contre, c'est une super offre. Il faut foncer. Parce qu'en plus, je pense que déjà, il n'y a pas d'indemnité de transfert pour Pogba. Et pour Ansu Fati, à mon avis, Barcelone ne va pas demander énormément.
On sera plus sur...
option d'achat.
C'est un prêt avec option d'achat, en fait, c'est ça.
Un prêt avec option d'achat, mais voilà. Une option d'achat bon, avec des bonus, etc.
Voilà, donc niveau salaire, ils vont pouvoir se régaler.
Et non, je pense même pas un prêt, hein, je pense que c'est une vente un peu...
On parlait de prêt avec option d'achat, après peut-être que ça va être une vente sèche, mais je ne sais pas. Mais
Parce
en tout
que quand
cas.
tu pars en prêt, tu gardes ton numéro normalement.
Tu gardes ton?
Ton numéro de maillot. Puisqu'on entend que Lamine Yamal va récupérer les 10
Non, non, pas forcément, je crois pas. Non, c'est pas obligé.
En prêt?
Bah, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas, faudrait.
Je suis pas sûr.
En tout cas, de toute façon,
mec
bah.
Qui part en prêt, on peut récupérer.
Ouais,
je pense,
ouais, il me semble que tu peux
son numéro.
Ouais, tu peux.
Mais, enfin, tu peux, mais est-ce que tu le fais, quoi?
Après, si je pense qu'ils n'ont pas laissé le choix.
Oui, et puis de toute manière, c'était écrit comme ça depuis le départ. Tout le monde le savait. En vrai.
Il faut qu'il lâche le 10.
Il a toujours été trop grand pour lui, le numéro.
Ouais, comme le FC Barcelone, je pense que le numéro 10, il est symbolique. Donc, sans fois, il n'a plus, les épaules pour l'avoir. Il faut le donner à quelqu'un qui en a.
Mais en tout cas, pour terminer, franchement, je trouve que c'est une bonne chose pour les joueurs. C'est une bonne chose pour le championnat. Et pour Monaco, ça reste des paris. Ça reste des paris. Moi, j'ai envie qu'une seule chose, c'est que ça marche. Je serais ravi que ça marche parce que j'aime bien les deux joueurs, surtout Pogba. Mais voilà, c'est des paris.
Merci, Alexandre. Jason ?
Déjà, concernant Pogba, sur l'aspect humain, je suis très content pour lui parce qu'il a subi beaucoup de choses ces dernières années. Donc, de remonter la pente et de pouvoir signer un contrat, on a pu le voir sur la vidéo que Monaco a partagé. Donc, sa joie, ça. Il était en pleurs, c'est quelque chose. Il sait très bien qu'il revient de très très loin. Maintenant, concernant l'aspect terrain, j'espère pour lui que, comme dit son préparateur physique, qu'il sera au point, même si on attend à ce qu'il monte crescendo. C'est pour ça que je pense qu'il a choisi aussi Monaco. C'est pour venir petit à petit, pas signer dans un club où on l'attend tout de suite titulaire et à performer immédiatement avec une attente ou des critiques.
Là, il s'est évité Marseille. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a. Je pense qu'il a évité Marseille. À Monaco, comme on dit, Monaco est réputé pour avoir un gros centre de rééducation, des bons médecins. Donc là-bas, il sera au moins bien suivi. Et il pourra revenir tranquillement le temps que Zakaria, parce qu'il y a Zakaria et Lamine Camara qui est titulaire. Donc il pourra venir petit à petit en puissance. Et concernant Ansu Fati, j'attends de voir, parce que déjà, il a été en échec à Brighton. Donc, au Barça, il a été en échec. Donc, je ne sais pas s'il a récupéré de ses blessures. Et j'attends de voir. Ça sera une surprise. Après, j'espère juste que c'est un prêt. Parce que si c'est une option d'achat obligatoire, si Ansu Fati n'arrive pas à s'en remettre, Monaco se mettrait une épine dans le pied. Mais si c'est juste un prêt avec option d'achat sans obligation, franchement, à voir.
Moi, je pense que dans tous les cas, ça pourrait être un bon challenge. Hein. Comme... on disait à Monaco, t'arrives, t'as pas trop de pression, hein. C'est pas les supporters qui vont te mettre la pression ou quoi. Du coup, t'arrives, tu prends ton temps et tu sais que c'est une équipe compétitive qui joue la Ligue des Champions. Tu te dis, voilà.
Oui, mais après, si le joueur il est mauvais, qu'il n'y ait pas de pression ou pas, s'il est mauvais.
C'est pour ça que c'est pour ça que s'il est mauvais, bah, il sera mauvais. Ah, il n'y a pas de contexte qui fait qu'il va être mauvais. On peut se dire que là, il va réussir. Ah, on se fatigue. Après, ce qui est dommage, c'est quand il commence sa saison pratiquement. Pratiquement du Yamal, ce qu'il faisait actuellement, peut-être un peu en dessous, mais c'était impressionnant déjà. Et là, de le voir comme ça, ça fait mal. Et j'espère, après Monaco, je pense que c'est les meilleures conditions. Hein. Comme vous avez dit, là, il n'y a pas de pression. Même au niveau des dirigeants, c'est même pas s'ils mettent de la pression aux joueurs. Parce que c'est des équipes, ils sont toujours deuxième, troisième. Alexandre, en plus, tu te plains à chaque fois
qu'ils
sont toujours en même place. Et là, Ligue des Champions, on n'attend pas d'eux qu'ils aillent en quart, ni en demi ou en finale. Ils arrivent toujours à faire leur petit parcours. Et puis voilà, dès qu'ils sortent, on ne les entend plus. Après, voilà, c'est un bon contexte, même pour Paul Pogba. Il revient en France, tranquillement, dans un petit club. Et il va se remettre, au niveau.
Je pense qu'il a la vision en Coupe du Monde dans sa tête,
il peut aller la chercher en Europe.
Il va aller la chercher, parce que le milieu de terrain de l'équipe de France aujourd'hui,
il
faut arrêter.
Et en plus, il est performant, je pense que il a toutes ses chances, surtout que c'est un leader. Et comme tu as dit, Salisson, le milieu de terrain d'équipe de France ne fait pas rêver.
Il
suffit d'être performant même une moitié de saison, je pense que t'es pris.
Mais Paul Pogba, avec tous ses antécédents, est-ce que vous pensez que Didier Deschamps peut sélectionner?
Oui, c'est son bébé.
Ça dépend. Il a toujours une bonne image avec Didier Deschamps. Et même,
il a toujours une bonne image, il s'est fait...
Après,
ça a un autre contexte, hein, Giroud. Parce que t'as avec les retours de Benzema, après t'as Mbappé qui repasse en neuf, etc. etc.
Et Griezmann,
là,
pareil, tu vois.
Tu me dis ça, si le milieu de terrain de l'équipe de France, il est intouchable. Mais là, il est touchable.
Là, il est touchable.
Là, oui, il y a de la place.
Et en plus, Pogba, c'est un peu le bébé de Deschamps. C'est son soldat.
C'est même le leader de l'équipe de France.
Attention. Là,
mais il est important dans un groupe.
Il a dû avoir de nouveaux bébés. Hein. Ouais, là, au milieu de terrain, là, son nouveau bébé, c'est Tchouaméni.
Ah oui, Tchouaméni, ouais.
Ah, oh,
mais Tchouaméni, c'est pas le poste à Pogba.
Pogba, il a 6 Tchouaméni dans ses pieds.
Ouais, mais c'est pas le poste à Pogba. Pogba, il jouait un cran au-dessus. Avec Didier Deschamps, il joue 8.
Ouais,
il joue pas 6. Donc, son concurrent, c'est qui? C'est Guendouzi, Koné. Rabiot,
ouais.
Il joue Pogba. S'il revient en forme, il joue.
Après, il ne faut pas oublier que on dit ça fait 2 ans qu'il ne joue pas à cause de son histoire de dopage. Mais comme tu as dit à la Juve, les 2 dernières saisons,
oui.
C'est-à-dire c'est limite, ça fait 4 ans le mec qu'il a
si
pas
on
fait
regarde bien, complet. Il ne joue pas beaucoup.
Ça, c'est revenir au niveau, même s'il s'est entraîné physiquement ou autre. Là,
même,
faut
je pense que même sans être au haut niveau, il peut être meilleur que Guendouzi.
Oui, non, moi pour moi, oui. Non, oui, ça j'en dis qu'on vient pas. Mais faut qu'il confirme.
Ah oui, faut juste qu'il se blesse
faut
pas.
Il ne faut pas qu'il ait des blessures. Ou des, voilà. Après, je pense mentalement, un mec il est fort mentalement et même techniquement. Dans tous les cas, techniquement, ça, c'est comme le vélo. Un mec technique, ça reste technique. Et là, physiquement, il a l'air d'être affûté.
Il faut juste qu'il soit épargné par les blessures.
Voilà, épargné par les blessures. Parce que le changement de rythme.
En Ligue 1, ça y va.
Surtout en Ligue 1. Après ce changement de rythme, là, tu arrives pendant 4 ans pratiquement, tu n'as pas fait de saison. Et là, tu arrives, tu vois, jouer la Ligue des Champions, Coupe de France, Ligue 1.
Après, je pense qu'ils vont le gérer. Hein.
Ils ont intérêt à le
gérer.
Même lui-même, le premier, il ne faut pas qu'il force.
C'est pour ça qu'il
faut pas qu'ils reviennent vite à la compétition.
Les deux, c'est des paris. Parce que les deux, si tu regardes les 4 dernières saisons, ils n'ont pas joué énormément.
Après, l'année dernière, Ansu Fati, il n'était pas blessé.
Il était à Brighton.
Il était à Brighton.
Il a joué un peu. Après, c'est juste qu'il n'a pas été performant.
Et là, il est revenu. Il me semble que cette saison, il s'est blessé pendant un temps. Mmh. Et ensuite, sinon, il a quasiment pas joué du tout. Finalement, c'est des joueurs, ils sont en manque de temps de jeu.
Et c'est ce temps de jeu-là qu'ils pourront récupérer, en tout cas, à l'AS Monaco. On va poursuivre, on va se faire juste une petite virgule avant de revenir avec la Coupe du Monde des clubs. Hein. La semaine dernière, on a pu voir le Paris Saint-Germain qui se sont inclinés face à Botafogo et qui se sont imposés derrière face à Seattle. On a vu le Real s'imposer 3-1 malgré l'expulsion prématurée de Asensio et la Juve remporter leurs 2 premiers matchs avec un Kolo Muani décisif. Kolo Muani qui a été sur le banc après pour le 3e match et on va vous parler de ce 3e match juste après la virgule. Kolo Muani décisif avec la Juventus sur le banc pour le 3e match qui, bon, la Juventus était déjà qualifiée mais ils auront pu aller chercher la première place mais en jouant contre Manchester City ils se sont inclinés 5 buts à 2 contre Mainers et Vlahovic. 5 buts à 2 face à la Juve, une équipe de City tout simplement au-dessus. Hein. On voit Cherki qui fait ses premiers pas aussi du côté de City. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Franchement, la Coupe du Monde des clubs, c'est inintéressant en fait. Enfin, en tout cas, d'un point de vue personnel, moi je prends zéro plaisir à regarder les matchs. En plus, pour certains, c'est en plein milieu de la nuit. Et puis, quand on voit l'organisation américaine, après, bon, moi, personnellement, je m'y attendais. Il y a plein de gens qui sont surpris, mais moi, je savais. Et même si on suit les autres sports, on voit que c'est souvent comme ça, qu'il y a des conditions météorologiques qui sont compliquées. En fait, c'est juste que c'est un pays qui n'a pas la culture foot, en fait, et il faut l'accepter. Et cette compétition, elle n'a ni queue ni tête depuis le départ. Et au final, quand on voit des qualifiés pour les quarts de finale, les huit équipes, sans trop m'avancer, je pense qu'il y aura quoi 6-7 équipes européennes au final et qu'il y aura peut-être une équipe sud-américaine. Donc voilà, bravo la Coupe du Monde des clubs. Au final, ça aura servi quasiment à rien. Parce que les meilleurs. Parce que moi, je veux bien les gens qui disent oui, on aurait découvert des très bons joueurs. Les meilleurs joueurs, ils sont déjà partis. Sinon, les meilleurs joueurs des championnats américains, africains, etc., ils sont déjà partis. Donc on n'a découvert personne. Le seul truc qui peut être un peu sexy, c'est juste de voir les styles de jeu de football, les différentes cultures foot s'affronter. Mais même là, je trouve que c'est un petit peu faussé parce que quand tu compares à l'époque où tu avais un style de jeu égyptien bien particulier, un style de jeu italien bien particulier, allemand, etc., brésilien, maintenant les équipes se la jouent un peu tous à l'européenne. Donc moi, je trouve que c'est mon avis, hein, c'est mon point de vue, mais je trouve que c'est une compétition qui est un peu sans intérêt. Et voilà, même les joueurs européens, ils vont un peu à dents de scie, ils n'en ont rien à faire en fait de cette compétition finalement. Donc voilà.
Merci Alexandre. Salson, est-ce que tu partages le même avis?
Ouais, bien sûr, je partage le même avis. Cette Coupe du Monde, pour moi, elle est nulle. Désolé, hein, elle est nulle. Elle est arrivée à un moment où il n'y a pas besoin. Elle est en train de tuer les joueurs. Elle va tuer, peut-être pas les joueurs sur l'instant T, mais sur les prochains mois, elle va tuer des joueurs. Le Pep Guardiola, c'est plein. Certains joueurs du PSG, ils l'ont dit. Bon, après, ils le disent parce que voilà, il faut le dire dans notre ton, sur notre ton. Même nous-mêmes, même je suis même pas joueur, mais même moi j'ai mal parce que je vois les joueurs du PSG en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Je les suis depuis le départ, je les suis depuis le mois d'août dernier. Les mecs, ça veut dire, sont en train de jouer au football. Ils ont fait Ligue 1, ils ont fait 17 matchs de Ligue des Champions. Ils ont fait, ils ont trophée des champions, ils ont des sélections en équipe nationale, c'est-à-dire ils ont fait des allers et des retours, ils ont fait la Ligue des Nations là, le final fort ou je sais pas quoi, ils sont partis en Afrique jouer contre je ne sais qui, ils reviennent faire la Coupe du Monde en Amérique, on est en mois de juillet, c'est-à-dire les mecs ça fait presque un an ils sont non-stop en train de faire des voyages, des va-et-vient, ils sont là-bas, ils jouent des matchs 90 minutes, et le PSG met une intensité, je parle pas que du PSG, mais je parle même de toutes les équipes en général, que ce soit City, que ce soit le Real, ou j'en passe, Chelsea aussi, qui eux ont gagné la conférence, c'est-à-dire ils ont fait énormément de déplacements, énormément de matchs aussi. Il faut arrêter un peu. Elle arrive à un moment, le calendrier n'est même pas ménagé, ça veut dire les gars, quand ils vont finir là, Le finaliste qui finit, il va finir le quoi? Le 14 juillet. Ouais. La reprise des matchs, elle est quoi? Le 8 août ou juste début août? Le 15 août. Ça veut dire que tu vas avoir quoi? 3 semaines de repos, tu vas revenir, ta préparation, tu seras dans ta préparation.
Parce qu'il y a de la pré-saison, il y a des matchs amicaux d'avant.
Sauf que la fédération française a décidé de ne pas décaler le match.
Mais oui!
Ils n'ont pas voulu première journée là, contre je sais plus qui. Ça, il faut arrêter.
Paris, ils vont jouer la Super Coupe d'Europe. Oui, c'est n'importe quoi. Trophée des champions avant. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est un scandale.
Mais il faut arrêter. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter de jouer. Les joueurs gagnent beaucoup d'argent. On s'en fout de l'argent. On veut du spectacle. On veut du beau football.
Nous, on s'en fout, mais les joueurs, ils s'en foutent pas.
Je pense qu'aussi, ils en ont marre.
Je pense vraiment qu'ils en ont marre.
Ça dépend. Il y a des mecs comme Kimmich qui dit moi, c'est ce que j'aime. J'entends pas. J'aime pas entendre les autres pleurer. Moi, j'ai envie de jouer. Quand je joue pas, je m'ennuie. J'ai envie de jouer au foot.
Mais ton
je
corps, suis ton corps pour ça,
et j'ai envie de jouer au foot,
Ton corps, il va dire non.
Ouais, mais leur vrai repos, c'est quand ça, c'est en mois de mai, un mois. Après, peut-être, il y a le... Ils font Boxing Day en Angleterre. Sauf que nous, en France, on a un repos. Mais les mecs, ça veut dire que tu joues constamment au football. Et au bout d'un moment, si tu veux tenir une carrière, faut que ton corps aussi, il récupère, il respire. D'ailleurs, on a vu des Zlatan, ils ont jusqu'à 40 ans, parce que ça va, ils faisaient des saisons à quarantaine de matchs. Mais là, ce rythme-là, Yamal, il y a 27
70
ans.
70 matchs, c'est pas certain.
70 matchs.
Ah bah oui, c'est les meilleurs, c'est 70 matchs.
À l'époque, là, je parle de
maintenant,
pas...
Maintenant, je te parle avant, ça va. Mais maintenant, là, les meilleurs, ceux qui vont...
En fait, il faut une saison de NBA.
Je suis sûr qu'au PSG, il y a des gars qui doivent être à 70 matchs.
Vous pensez à Hakimi, un mec comme Hakimi, là, qui va arriver, ça veut dire qu'il va finir, on sait jamais si PSG arrive en finale. 14 juillet, le mec
il a 70 matchs,
il va en vacances, il va revenir faire sa prépa.
15 jours et après
le temps que sa prépa, parce que la prépa, après la prépa, t'es encore fatigué. Après la prépa, tu encore récupères. Dire le mec il sera pas prêt avant au moins novembre, décembre. Sauf qu'après, il va à la CAN. Il revient de la CAN, il va être émoussé parce que là-bas c'est un autre climat. Il va revenir avec le.
Non, c'est un scandale. Après, il y a la Coupe du Monde à la fin.
C'est quoi le.
En fait, ils veulent faire des compétitions non-stop à chaque fois qu'il y a un trou. Ils veulent pas de trous.
Tu vois, Philippe, tu dis l'argent, mais moi je n'arrive
pas. Parce qu'il y a des droits télé.
Mais je sais, mais moi je n'arrive pas à comprendre.
Mais d'où vient l'argent? Dazon, il paye pour montrer la Coupe du Monde des clubs.
Mais ils proposent les matchs gratuits. Après,
ça, c'est une action promotion.
Ah, ça, c'est leur problème.
Et en plus de ça,
ils achètent l'événement. Ils achètent l'événement.
Les stades ne sont même pas pleins.
C'est un fiasco.
Ça dépend des matchs. Parce que
hier,
Flamengo Chelsea, c'était blindé.
Oui, parce que c'est Flamengo. T'avais Alali qui jouait, t'inquiète pas, c'était pas grave.
Excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu regardes les matchs encore, t'as l'impression d'être à la pré-saison. Là. Il y a du soleil, le rythme va à 2 à l'heure.
J'ai l'impression à l'époque, les matchs étaient à l'époque.
Exactement.
Quand tu commences sur Beansport, là, le 15 juillet.
C'est exactement ça.
Il n'y a que des petits jeunes sur le terrain.
Tu te dis, je vais regarder un petit peu voir ce que ça donne la prépa, etc.
Après, ces matchs-là, ça arrange plus les équipes hors européennes, parce qu'en fait, ils récupèrent l'argent des matchs gagnés. Par exemple, comme les équipes africaines comme Al Ahly ou le Wydad, tout ça, dès qu'ils gagnent un match, je crois qu'ils gagnent 200 000 euros ou un truc comme ça. Tu vois, pour les clubs comme ça, 200 000 euros, tu imagines en Afrique, t'es le roi du monde quand t'es un club comme ça.
En plus, surtout que ces équipes-là, excusez-moi encore une fois, mais là, c'est là que tu vois que l'Europe, ça n'a rien à voir. Je suis désolé. Mais
parce que ces équipes-là, elles sont en pic de forme. Hein. Elles sont à leur pic de forme, ces équipes-là. Parce qu'eux, ils commencent la saison en janvier. Eux, ils sont en pleine saison, ils sont à leur pic de forme. Et les équipes européennes, elles sont émoussées. Ouais, elles arrivent quand même à mettre des gros scores. Et moi, où je parle de l'absurdité de cette compétition, c'est, on en a beaucoup parlé, mais le match, pour moi, il le résume parfaitement, c'est Bayern Munich-Auckland. C'est-à-dire qu'en fait, tu joues contre... C'est comme si, non, prenait une équipe de National 2 qui jouait contre le Bayern. Et encore, je suis gentil, parce que je croyais, j'ai gagné, j'ai regardé, ils gagnaient $80 par semaine, je crois, les joueurs d'Auckland, un truc comme ça.
Avec peut-être 300 euros. Mais ils travaillaient tous à côté.
Oui, bien sûr, mais c'est pour dire à quel point c'est absurde. C'est absurde. Et en plus de ça, le pire de tout, c'est que c'est une compétition, en fait, c'est sur invitation. C'est-à-dire qu'en fait, les critères pour accéder, on ne sait pas d'où ça vient. Ils ont mis l'Inter Miami là, après ils ont mis l'Atlético ici... Après, ils ont pas mis le Barça, mais ils ont mis le Real.
Ils ont un peu choisi les meilleures équipes de chaque continent.
Merci. On a compris qu'autour du plateau, vous n'étiez pas d'accord avec cette compétition. Mais on va quand même rentrer dans le vif du sujet et analyser les matchs et donner une vraie analyse sur les matchs. Philippe, qui nous a rejoint, comment ça va, Philippe?
Bon, moi, ça va très bien.
Ça va très bien. Je suppose que tu es du même avis que chers collègues.
Pour moi, c'est la compétition de trop. C'est énormément la compétition de trop. Je préférais effectivement que les joueurs aient mis un terme à leur saison après la Ligue des Nations. Oui. Et qu'on ait l'année prochaine une super belle Coupe du Monde, la vraie, la grande. Hein. Voilà, effectivement, avec la répétition des matchs, on disait, il y a des gars comme au PSG qui vont avoir pas bien loin de 70 matchs. Quoi. Tous ceux qui jouent tous les matchs, c'est 70 matchs à l'année, et c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et le problème, c'est que l'année prochaine, il y a peut-être des joueurs qui seront rincés, et puis on s'embêtera en Coupe du Monde. Quoi.
C'est pour ça que Luis Enrique n'a pas d'autre choix que de recruter des gens, sachant que ces postes-là vont partir, qu'il aime bien les doublures, et il aime bien faire tourner. Oui. Du coup, on peut penser que ça, ils joueront un peu moins de 70 matchs quand même.
Puis en plus, il y a la chaleur, il y a tout ça. Quoi. Donc,
mais qu'est-ce que tu en as pensé, sinon, des performances des équipes plus récemment, en tout cas, là, du Paris Saint-Germain?
Je pense que le PSG, s'ils alignaient une Coupe du Monde des clubs, ce ne serait pas une surprise. Hein. Ils ont une telle dynamique, de toute façon, sur leur lancée, il n'y a rien qui va pouvoir les arrêter. Quoi.
Voilà, qu'est-ce que tu as pensé du match face à l'Inter Miami?
Ça a été facile. Ça a été facile, il n'y a pas eu de match. Quoi. Voilà. Ils ont même plutôt géré en deuxième mi-temps. Bon, c'est dommage pour Lionel Messi, mais enfin bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est une dynamique pour le PSG. Là, il y a un petit contentieux. Je ne veux pas dire qu'il y a un petit contentieux, mais enfin bon.
Il y a un contentieux juste pour les Parisiens. Messi, il n'en a absolument rien à faire.
Tu veux pas dire ça, c'est faux. Quand il arrive en interview, à chaque fois qu'il arrive en interview, il lance une petite pique.
Mais pourquoi
au Paris Saint-Germain?
Mais parce qu'on lui pose la question.
Je te dis pas le contraire.
Il est quand même venu à défaut au PSG, et puis il est parti. Tu sais que c'était la guerre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, et quand Messi a terminé sa deuxième saison, il a été remplir des contrats publicitaires.
Avec l'Arabie Saoudite
qui a déclenché le départ de Messi. Alors, c'était peut-être volontaire. C'était peut-être volontaire, mais voilà. Il n'a pas surfé sur la dynamique du mondial avec l'image du PSG. Hein. Voilà, donc je crois que le contentieux, il part de là. Messi, il devait retrouver un club pour jouer, pour être compétitif pour le mondial. C'est ce qu'il a fait. Ouais. Et puis voilà.
Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, mais sauf que n'est pas très compétitif.
Ouais, c'est le championnat des semi-retraités, quoi. Les USA, voilà. Donc
je parle football. Oui. Le seul truc que je tenais à dire que c'est n'importe quoi, c'est sur les matchs avec les conditions météo.
Et oui.
Par exemple, je regardais le match Benfica-Chelsea. Le match s'arrêtait pendant 2 heures.
Oui.
Comment tu peux reprendre un match après 2 heures?
C'est impossible.
C'est incroyable.
On a vu en 10 minutes à peine, Angel Di Maria ont égalisé et ils ont réarrêté le match. Ils sont revenus des prolongations en même pas 5 minutes. Ils ont mis 3 buts encore.
Sauf que eux là-bas, ça les choque pas parce qu'ils sont habitués à ça.
Mais le truc, c'est que je comprends pas.
Mais Benfica et Chelsea, il n'y en a aucun qui est habitué.
Non, mais le match, il est arrêté. Tout le monde sort du stade. Et tu rentres chez toi? Non, les gens ils reviennent.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, après, je t'explique, c'est aux États-Unis, les stades, c'est des centres commerciaux.
Oui.
C'est-à-dire que les gens.
C'est l'américaine.
C'est pour ça que les
comme
stades
le
sont pas pleins. C'est qu'en fait, ils sont là, ils prennent des hot dogs, après ils voient le match comme ça, et après ils repartent et ils prennent des t-shirts. Et je te jure, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est une culture qui est totalement différente, qui est totalement. Et par contre, quand il y a des équipes sud-américaines, les stades ils restent pleins parce qu'ils ont la culture, du foot. Mais ça n'a aucun sens.
Moi, ce qui me choque là, c'est leur entrée, là, les entrées. Là,
en mode basket.
C'est ça.
Comme le foot US, comme le
Super Bowl. 10 minutes, 15 minutes.
C'est le show, hein, c'est le main event.
C'est le business américain.
C'est ça.
On a pu voir le Bayern s'imposer aussi face à Fluminense.
Flamengo.
Flamengo.
Par contre, ça c'était un vrai match. Moi, j'ai bien aimé.
4 buts à 2, oui, c'était un match assez rythmé.
Il y avait une bonne opposition face au Bayern. Ils avaient... Flamengo avait du répondant.
Et heureusement qu'ils mettent le break. Heureusement qu'ils mettent le break. Que... Sinon, je suis sûr qu'ils se prennent le
trophée. Ils peuvent égaliser. Hein. Ouais. Ils ont des balles d'égalisation. Et Fluminense, niveau jeu, ça joue très bien.
Flamengo.
Et ça mettait une grosse intensité.
Oui, Gerson qui a envoyé un pétard.
C'est même pas le Gerson de Marseille. J'ai l'impression là, en mode, c'était un capitaine. Il va vraiment
être
vendu en mode.
Au Zénith, pas. Hein, il va être vendu aux Zénith. Ah ouais, Zénith vient de débourser.
Après, je ne sais pas si en Europe, il va avoir la même lignée qu'il a là avec Flamengo. Tu as l'impression que c'est lui qui porte son équipe. Tu vois, tu as l'impression qu'il a une aura dans son équipe. Alors qu'à Marseille, il était bon. Mais c'était en mode, un peu capricieux.
Marseille, c'est toujours ça avec tout le monde un peu.
Oui, c'est vrai.
Ouais, mais c'est là, tu vois quand même le comportement quand même du joueur. Tu vois que là, il est chez lui, il est bien. Et tu vois un autre joueur, tu vois qu'il a le niveau de jouer contre le Bayern. Il a fait un gros match, son équipe a fait un gros match. Après le Bayern, quand ils ont décidé d'appuyer aussi sur la pédale, ça a quand même fait mal parce que tu le voyais sur les combinaisons, sur comment il les faisait un peu tourner. Et le truc qui déjouait le pressing aussi, la conservation de balle du Bayern, c'est que les Brésiliens, j'ai l'impression, ils peuvent presser pendant 90 minutes. On les fait tourner, mais le gars, il court comme un taureau, il continue.
C'est leur culture, ça.
Et au bout d'un moment, c'est normal qu'ils récupèrent et qu'ils partent en contre. Mais jamais en Europe, tu verras une équipe, là, à part le PSG, faire ça. Presser pendant... tu te fais tourner... le gars, ils sont trois, ils te font tourner. Toi, tu continues à courir autour du ballon. C'est incroyable. Ça m'a étonné. Et après, j'ai bien aimé la confrontation. Franchement, il y a eu des buts, il y a eu du spectacle, il y a eu des beaux buts.
Ouais, c'est vrai que c'était un match plaisant à regarder, c'est vrai.
Heureusement qu'il y en a quelques-uns.
Voilà, toute la compétition, plus on va avancer, plus peut-être ça va être intéressant à regarder entre parenthèses.
Ah là, il y a les huitièmes, oui, je pense que. Enfin, les quarts même qui vont arriver après.
Ceux qui n'ont pas suivi la compète et qui ont vu Botafogo Palmeiras, ils ne regardent plus la compète.
Ouais.
Quand tu regardes ce match-là, Palmeiras a essayé de proposer des choses, mais Botafogo, c'est une horreur. Une horreur.
C'est pour ça qu'il l'a viré, je pense.
Ah, une horreur. C'est pire compliqué que Diego Simeone. C'est lui, c'est triple dalle de ciment.
Ah,
oui. Ah, c'est trop.
La mauvaise nouvelle pour Jason. Hein.
Je sais, il gagne 1-0.
On verra le score. Cano, on est obligé d'en parler.
Un mec de 36 balais, je sais pas quel âge, qui arrive à. Ah, l'Inter, il me fatigue.
Il part dans 0 l'Inter.
Ouais, 4 minutes de jeu.
37 balais.
Incroyable.
37 balais, c'est grave.
Oui, donc l'Inter sont en train de perdre 1-0. On va rester sur la Coupe du Monde des clubs. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé du match aussi, des matchs à venir, hein, Manchester City qui sont imposés face à la Juve, 5 buts à 2.
Oui, c'est peut-être une petite possibilité pour Manchester City de se réhabiliter de sa saison. Hein, oui. Sa saison qui a été très, 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 très moyenne, même s'ils ont décroché une Coupe. Une qualification en Europe, ils ont ils ont quand même décroché une qualification en Europe, mais c'est un moindre mal, quoi. Hein. Donc voilà. Donc bon, peut-être que ça peut être une possibilité pour eux de sauver un petit peu la saison, hein, même si ça remplacera pas naturellement la saison très moyenne qu'ils ont effectuée, quoi.
De toute façon, il a dit lui-même, Guardiola, que ça changerait pas.
Non, c'est pas. Ouais.
Et Real Madrid qui sont imposés face à Salzbourg, 3-0.
Ça va un tout petit peu mieux après un début un petit peu moyen. Après le Real, c'est pareil. Hein. Peut-être que.
Et on a des nouvelles de
peut-être
Mbappé,
qu'ils vont se refaire une petite santé.
Il sera là face à la Juventus.
Il a perdu 5 kilos quand même.
Ouais, alors voilà l'exemple de joueurs que. Voilà, après, qui la Coupe du Monde des clubs, c'est trop.
Il est pas mal. Hein.
Garcia,
franchement, il fait des bonnes prestations.
Gonzalo Garcia, ça.
Ouais, Gonzalo Garcia, franchement, je trouve, il est pas mal. Un point d'appui, il est décisif.
Pas le même profil. C'est un vrai numéro
9. Ouais, ça se voit, c'est un vrai numéro 9. Il rechigne pas sur les efforts. Et il sert ses collègues, il c'est pas un radin devant, il a pas intérêt d'être radin, mais il est pas radin devant les buts. Franchement, moi il me choque. Les trois matchs que j'ai vus de lui, c'est quelqu'un qui peut être dans la rotation devant. Hein.
Après moi,
Hendrick là qui revient. Hein.
Hendrick, j'avais complètement oublié.
Mais je trouve que je pense qu'il y a pas d'enseignement à tirer de cette compétition en vrai, je pense.
Pour un petit jeune comme ça, si, parce que regarde, grâce à cette compète, il peut se faire voir et montrer que dans un match officiel. Il peut être présent. Après, pour les autres, pour Vinicius et tout ça, non. Mais pour un joueur comme lui qui sort de l'équipe B,
Non,
non ça va, il commence à monter match, en puissance.
J'avoue, catastrophique.
Même l'avant-dernier, il n'a pas été catastrophique. Son premier match, il n'a pas été bon. Le deuxième match, il a été très bon. C'est lui qui créait les occasions. Il n'a pas été buteur ni passeur décisif. Mais si tu regardes le match, il a été très bon.
Non, mais c'est qu'en fait, quand tu compares le niveau qu'il a eu à un moment donné, je trouve.
Non, mais là, dernièrement, même, il était dans le rentre-dedans. Donc, du coup, là, justement, je regarde tous les matchs du Real et je te le dis, là, il se remet très, très bien. Si tu regardes les derniers matchs,
j'ai pas regardé
les derniers,
mais les deux premiers, j'ai regardé.
Bah, le deuxième, il a fait un très bon match. Et là, le troisième, il n'y a rien à dire.
Oh, il a fait passe des buts.
Et dans le jeu, même.
Ouais, il a été bon.
Du coup.
Comme quoi, ça coïncide peut-être.
Regarde, comme quoi la compétition, tu vois, elle peut le relancer aussi.
Ouais.
Oui, c'est une prise de confiance. Là, tu tombes contre la Juve. Maintenant, tu sais qu'après la Juve, tu peux. Si tu passes la Juve, tu sais que tu peux avoir Dortmund ou Monterrey. Dortmund, normalement, tu vois, tu peux commencer à te relancer. En demi, tu as un PSG ou Bayern.
Ça
peut commencer à devenir sérieux, intéressant. Oui. Et Inter, s'ils s'imposent ce soir, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. S'ils s'imposent, ils peuvent aller chercher City, vont jouer contre
Inter. Ça va être compliqué parce que j'ai vu les matchs. Il n'y a pas de fond de jeu.
Ah, c'est compliqué.
Devant, on a des attaquants de série B. Ah, c'est compliqué. Il a fait jouer. Bon, c'est un espoir à venir. Esposito.
Il est bon. Il a marqué.
Ouais, il a marqué, mais dans le jeu, c'est un Playmobil. Le mec, il bouge pas. Si tu n'envoies pas des ballons dans la boîte, il sert à quoi? Il n'arrive pas à bouger. Il est grand. Il va pas vite. Et dans les combinaisons et tout. Oh là,
Marcus Thuram est de retour.
Urawa. Ouais. Quand j'ai vu le match contre Urawa, je dis, c'est pas possible. Urawa, tu n'arrives pas à enchaîner des combinaisons à l'entrée de surface. T'es obligé de mettre des ballons sur le côté, on voyait que des briques dans la surface.
Mais je pense que le 5-0, il est encore.
C'est grave.
Ouais. Ah ouais. Il est encore dans les têtes, le 5-0.
C'est encore
dans les têtes.
C'est pas que le 5-0, hein, c'est tout ce qu'ils ont perdu avant aussi.
Oui, oui, oui. Bien sûr. Je pense que la fin de saison. Mais bon, voilà. Je pense que là, ils n'en sont pas bien remis encore. Je crois que psychologiquement.
C'est la fin de saison de l'Inter.
Malheureusement.
Mentalement, c'est dur.
Surtout la perte du titre face à Naples, quoi. Ça, c'est.
C'est compliqué. Chelsea qui sont imposés 4-1. On a parlé un peu brièvement de ce match. Hein. C'était un peu coupé. Chelsea aussi qui peuvent se relancer un peu.
Attention, ils ont gagné toutes les coupes d'Europe. Tu vois le coup qu'il y a.
Ils font pas de bruit. C'est pas. C'est bizarre. Ils sont pas ouf. Mais ils arrivent toujours à se mettre positionnés dans les bons. Tu vois, même en championnat, en conférence, encore eux qui la remportent un peu quand même. Mais tu vois, même sur cette compétition-là, je sais pas, je pense qu'il peut faire quelque chose.
Après, ils ont eu un parcours difficile. Hein. La seule équipe qu'ils ont affrontée, qui était dure, les ont battus.
Le Flamengo.
Voilà. Ouais. Donc après, ils n'ont pas eu un parcours très difficile.
Oui,
hein.
Mais bon, ils peuvent créer une surprise quand même.
Franchement, moi, comment je vois Chelsea, c'est très compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
C'est très compliqué.
Et c'est une équipe bizarre.
Cole Palmer qui n'est plus dedans. C'est bizarre. Voilà, ils ont réussi à.
En plus, ils ont encore recruté un joueur.
Delap.
Je crois que c'est.
Delap.
Ouais, Delap, l'attaquant.
Ouais, ils ont
récupéré. On dirait une mode un peu Vardy, un bagarreur devant. Par contre, lui, c'est un vrai neuf comparé à Jackson.
48 millions, je crois, il ouvrait.
Après, c'est les prix anglais.
Ouais, un peu plus même.
Mais là, j'ai vu qu'il voulait.
Le voulait déjà aussi.
Il voulait aussi. Comment il s'appelle? Bailo Gittens. Et j'ai dit, ils ont 60 000 ailiers, ils veulent encore recruter des ailiers.
Sancho, apparemment.
Ouais, il est retourné à Manchester. Manchester, ils n'en veulent plus.
Non, mais il est à Chelsea, il a été vendu
non,
à Chelsea.
Non.
Il est retourné à Manchester.
Ils ont refusé de l'acheter.
À Dortmund.
Manchester le vendait que 25 millions. T'imagines, ils n'ont pas voulu poser 25 millions pour Sancho.
Ouais, c'est effrayant.
Donc c'était gratuit. Ils se sont servis de lui, ils n'en ont plus voulu. Manchester, ils l'ont mis de côté. Ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de lui. Ils ne veulent plus de Rashford. Et tous ces mecs-là, ils n'en veulent plus, Manchester. Je sais pas avec qui ils vont jouer aussi.
Ils vont le vendre.
Ouais, Garnacho aussi, alors qu'il avait fait. Il était bon.
Kuna, Matheus Kuna.
Ouais, Kuna, mais.
Et là, au milieu de terrain, ils ont récupéré. Il parle de Mbembo aussi sur le.
Ouais, Mbembo.
Ah, oui.
Je pense que. Bon,
après, je demande à voir, hein, parce que les mecs qui font partir, quand même, c'est des gars qui ont fait des bonnes saisons. Parce que Garnacho, il était bon malgré tout à Manchester.
Quand il jouait, il était bon.
Après, ouais, peut-être dans le vestiaire, je ne sais pas comment ça se passe.
Le fait qu'il ne joue pas la finale, ça a créé des tensions avec Amorim. Amorim lui a dit tu ferais mieux de trouver un club. Quoi.
Non, mais là, au moins Amorim, là, il a son été pour bien faire son effectif.
Et après, il n'aura plus d'excuses.
Voilà, il n'aura plus d'excuses. Mais à voir, franchement, à voir si c'est vraiment un club maudit ou pas. Quoi.
Après, c'est compliqué d'arriver avec un club comme ça quand même et de prétendre à la reconstruction doit, doit être un peu plus long quand même. Ouais. On verra en tout cas, pour l'instant c'est bien parti. On va se faire une petite pause, hein. On va se faire une petite pause avant de revenir sur l'Euro U21. On a pu suivre les Bleuets, hein. Les Bleuets qui s'étaient qualifiés 3-2 face au Danemark et l'Espagne qui se sont fait éliminer par l'Angleterre 3-1. On a pu voir le sacre des Lions pour la deuxième fois consécutif. On va y revenir juste après.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans Au bout du foot, hein, il est 21h18, si vous venez de nous rejoindre, nous avons parlé en off un peu de ce qui s'est passé. On va prendre la France qui se sont fait éliminer
en demi-finale, comme en 2019. Bon, il n'y a pas photo contre l'Allemagne. Bon, être éliminé quand même en demi-finale de l'Euro Espoir, c'est quand même, c'est quand même une performance tout à fait correcte pour le football français. Hein.
Mais 3-0 quand même.
Oui, hein. Oui. Bah 3-0, mais on avait pris le même branlé contre l'Espagne, je crois que c'était en 2019. Voilà, après ça marque limite. Après, il faut quand même se méfier parce que c'est vrai que ça promet des générations talentueuses, à l'image des Anglais qui ont gagné. Malheureusement, l'histoire du foot a montré que ces générations-là, parfois, avaient eu du mal à confirmer. Hein. Moi, je me rappelle en 88, une génération exceptionnelle qui avait gagné l'Euro, puis après, elle n'a pas fait la Coupe du Monde ni en 90, ni en 94. Donc voilà. Donc, il faut en prendre avec modération ce genre de résultat. Mais c'est vrai que c'est quand même assez talentueux chez les Anglais. Hein.
Oui, même côté allemand,
Waldemann,
il commence à être de plus en plus convoité, hein, qui joue à Stuttgart.
Et qui va sûrement aller au Bayern.
Ouais, et qui a beaucoup planté là. Et côté anglais, Elliott, hein, c'est pas une surprise de toute façon. Ouais. Hein. Ouais. Elliott enchaîne but sur but et dans les gros matchs aussi. Du coup, les mini Lions qui sont imposés 3-2 après pendant les prolongations grâce à un but de Jonathan Rowe. Du coup, ils se sont imposés. Ils ont une très belle. Ils ont une équipe du 21, tout simplement, surprenant. Hein.
Ah, les deux nations. Mmh. La majorité de leurs joueurs jouent au haut niveau.
Ouais.
Ce qui a fait défaut de la France, c'est tous les joueurs qui n'ont pas pu venir, que les clubs ont bloqué.
Ça
a joué. Comme parce que déjà qu'ils arrivent en demi-finale, ça a été bien parce qu'il a constitué une équipe sur le tas. Et après, ce qui m'a déçu côté français, c'est que, par exemple, on parlait beaucoup en bien de Mathis Ablin. Et sur cette compétition, on a vu beaucoup de lacunes de son côté, que ce soit au niveau de la finition.
Et t'es quitté, lui, c'est le club
Il s'est blessé juste avant.
Ah, oui.
Il s'est blessé juste avant la compète. Et Mathis Ablin, on a vu que devant, même pour les combinaisons, c'est compliqué, alors qu'à Nantes, tout le monde lance assez. Et là, on a pu vraiment voir le joueur. En plus, c'était contre des joueurs de son âge. Donc, c'est là où, comme Voltemet, tu dois survoler ta catégorie. Et franchement, ça a été très compliqué. Il y a Mathis Tel qui a fait une bonne compète. Et concernant les Allemands et les Anglais, franchement, deux grosses générations. Les Allemands, avec Nöbel, ils ont beaucoup de joueurs de Bundesliga. Et tu voyais, ça sentait le football. Même les deux, quand ils se sont affrontés en finale, même malgré que l'Angleterre menait 2-0 très tôt, tu t'es dit, le match, il n'est pas fini. L'Allemagne poussait, arrive à se créer des occasions. Et une fois que le 2-1 est arrivé, ça a relancé la machine. Et malgré que l'Allemagne, après même en prolongation, commençait à reprendre le dessus, parce que les Allemands ont touché deux fois la barre, en plus deux fois en fin de match, ils auraient pu gagner 3-2, et ils auraient pu égaliser en 3-3. Et les Anglais, avec les entrées d'Euro, parce que la défense allemande était épuisée, ont fait rentrer un peu des joueurs de vitesse et ça a payé.
Et simplement. L'équipe espoir anglaise, qui ont de la chance, eux, contrairement à leurs aînés, hein, qui ont du mal à gagner.
Mais surtout que le coach... C'est le coach qui entraînait l'équipe d'Angleterre avant Tuchel et qui était resté sur, je crois, 6 victoires consécutives. et qui a laissé sa place à Tourelle. Donc, il revient avec les jeunes, il reprend un trophée, comme quoi ils n'avaient pas forcément de besoin de prendre Tourelle pour faire fonctionner leur équipe nationale.
Alors après, on verra.
C'est sûr que c'est pas pareil, hein, c'est pas le même niveau.
Ouais.
C'est pas
ouais,
même comment gérer ton vestiaire, c'est pas les mêmes égos aussi. Hein. Mm-hmm. On peut penser à ça.
Les résultats que Tourelle fait.
Oui, bien sûr, tu peux lui donner sa chance. Après, Tourelle, il a gagné une Ligue des Champions.
Ah oui. Oui, c'est sûr.
Fois demi-finale, c'est il a déjà un palmarès, quoi.
Bah après, être aussi sélectionneur et entraîneur de club, c'est pas pareil.
C'est pour ça que tu donnes la chance à un peu plus aux plus expérimentés, quoi, on va dire ça comme ça. Ouais. On a vu une déclaration, hein, je suis obligé de vous la lire, hein, de Hugo Etiquité. Jouer pour la France est mon rêve primordial, mais si je suis snobé par la France, je n'aurai vraiment pas le choix que de représenter le pays de mon père. Je parle du Cameroun.
Ouais, j'aime pas ces moi, j'aime pas ces déclarations.
Et là, il s'est tiré une balle dans le pied.
Là, ça, c'est pas bon. Ça,
Attendez, la fédération, mettez-vous à la place de la fédération camerounaise. Demain, comment vous réagissez face à.
Je le convoque jamais. Jamais de la vie, je le convoque.
Mais les Africains, ils vont l'appeler.
Oui, bien sûr qu'ils vont l'appeler.
Mais ça, c'est un vrai problème.
Bien sûr qu'ils vont l'appeler. Bien sûr qu'ils vont l'appeler.
Son principe, il faut pas le faire.
Oui, mais bien sûr.
Son principe, je suis d'accord. Il faut
pas le faire.
Mais bon, je n'aurais pas le choix que de représenter le pays d'origine de mon père.
Ouais. Ah,
non, mais c'est n'importe quoi.
Et après, derrière, rajoute qui est le Cameroun pour.
Non, mais déjà que les nations le savent, que la majorité des joueurs nés en France, quand il y en a beaucoup, quand ils vont en sélection de leur nation, c'est parce que la France est cuite. Mais là,
mais
le fait
de
le
dire comme ça, de cette
de
façon,
le dire, c'est vraiment qu'il est culotté.
Il y en a le font parce qu'ils ont envie d'y aller, tu sais, dès le départ.
Ouais. C'est
dès
ça
le départ, ils sont même dans les équipes jeunes. Voilà. Là, j'ai vu là, Foussini Diawara qui a fait le dernier tournoi de Toulon. Là. Je sais pas, c'est un autre nom maintenant. J'oublie que c'est équivalent au tournoi de Toulon. T'as plein de binationaux qui y sont. C'est quoi, c'est des U20, je crois. Donc ça veut dire les gars, ils savent très bien qu'ils veulent jouer pour le Mali avant même que l'équipe de France n'ait fait appel à eux. Mais là, ça veut dire que tu dis en public, tu le dis ouvertement. Si la France ne me convoque pas, eh ben, le Cameroun, je vais chez vous. Parce que j'avais pas le choix, parce que l'équipe de France ne
m'a
pas pris.
Même en tant que coéquipier, en fait, toi, en tant que joueur,
je te vois mal.
Non, mais déjà, même tes sélectionneurs, tu te dis, le jeune, il a réalisé une bonne saison.
Ouais, en plus.
Et direct, il se permet de dire.
Celle
d'avant d'arriver.
Après, on lui a posé la question, mais bon, quand même, c'est pour ça qu'en fait, il faut faire pour les fédérations africaines, il faut faire comme les fédérations maghrébines, c'est-à-dire surtout le Maroc et l'Algérie, faire une politique sportive où ils vont chercher les jeunes dès le départ, ils les sondent, ils vendent le projet déjà, et ils les sondent pour dire, écoute, nous on aimerait vraiment que tu joues pour le Maroc, pour l'Algérie, ou pour la Tunisie, oui ou non. Et dès le départ, ils sont fixés.
C'est comme il a dit Slimani un peu.
Voilà, exactement.
Slimani, il a mal dit.
Ouais, mais une fois qu'ils vont les voir, ils sont déjà connus. Eux, la plupart du temps.
Non, détrompe-toi. Par exemple, regarde ce qu'ils ont fait.
Ben Seguir,
ou regarde ce qu'ils ont fait avec Hannibal Mejbri. Ils sont allés l'approcher dès le départ depuis longtemps.
Mais après, à l'époque, Hannibal aussi, quand ils vont le voir, il était déjà en train de péter.
Il avait 16 ans, mais il était déjà connu.
Il commence à faire à Manchester United à 16 ans.
Non, mais de toute façon, lui, de toute façon, nous, en tant que banlieue parisienne, ça fait très longtemps qu'on le connaît.
Oui, après, moi, j'entends déjà parler lui en jeune ou quoi. Mais ça veut dire pour dire que déjà, le mec, il faisait déjà du bruit.
Oui,
non. En plus, tu me dis, c'est pas comme si c'était une nation où tu avais des grands joueurs.
Mais c'est pour te dire qu'à la différence des fédérations africaines subsahariennes, c'est que ils attendent tout le temps que le joueur fasse son choix, etc. Mais à un moment donné, tu as des origines, tu veux représenter ton pays d'origine, tu viens. Il n'y a pas de second choix. Au bout d'un moment, si tu représentes ton pays d'origine, tu viens pour une raison, pour représenter ton pays. C'est ton pays, c'est le pays de tes parents, c'est le pays. Tu ne viens pas par défaut, en fait. Normalement, ça devrait être une règle d'or, en fait.
Bah, s'il se sent pas camerounais, tout simplement,
tu joues pas pour le Cameroun, tu vois.
Bah, t'as le droit de pas vouloir jouer.
Ah oui, mais bien sûr. Mais c'est que les fédérations, après, pour moi, elles devraient pas venir là à dire Hugo Etiquité, viens jouer pour le Cameroun.
Même les Camerounais, moi, connaissant les Camerounais, comment ils ont un grand. Ils ont vraiment de l'ego.
Ah, mais là, oui,
je pense qu'en attendant ça.
Non, mais je suis d'accord avec
toi. C'est le truc, Robert, le truc, c'est que les Camerounais, ils vont te dire, par exemple, non, je le veux pas. Mais il suffit que, malgré tout, il appelle, il marque un but décisif, ça y est, voilà, tout oublié.
C'est ça.
Mais est-ce qu'il va pouvoir assumer le climat de là-bas, les conditions de football là-bas? Et en plus, quand tu connais la fédération, comment ça se passe? Tous les dessous de la fédération.
Les là-bas, là, c'est effrayant.
Les grèves, les déplacements compliqués.
Moi, je suis sûr qu'un joueur comme Etiquité, si il est appelé en sélection camerounaise, ce sera quelqu'un qui sera en gros la star.
Ah oui, non.
Je suis la tête de gondole du pays.
Star, je sais pas.
Parce qu'il n'y a plus trop de. Parce qu'au Cameroun, il n'y a plus d'attaquants.
Oui, après tu sais.
Il n'y a plus d'attaquants.
Il y a Mbembo encore. Il y a Mbembo.
Mbembo, c'est un attaquant côté. Je parle d'un vrai neuf. Aboubakar, ça y est, il commence à être sur la fin. Il n'y a plus vraiment de neuf.
Après, il y a l'attaquant du continent qui lui rappellera que c'est un petit joueur, je pense.
Oui.
Qui lui rappellera que c'est un petit joueur et qu'il n'a pas intérêt à parler de tel. Du coup, je pense qu'il devra obligatoirement présenter ses excuses s'il veut jouer un jour.
Oui, je pense qu'il va prendre la parole.
Ce sera un mauvais match. Pour moi, même s'il va au Cameroun, c'est un mauvais match pour lui. C'est ça. Pour moi, ça ne va pas matcher. Il ne va pas réussir à s'imposer. Il va pas... Je ne le vois pas s'imposer en Afrique.
L'Afrique, c'est pas...
C'est un autre climat, c'est un autre contexte. C'est pas... Voilà. Qui reste, qui laisse le Cameroun tranquille. Pour moi, il a craché sur le Cameroun et le Cameroun n'a pas intérêt à le rappeler.
Mais tu vois, si lui jamais... qui laisse le Cameroun tranquille, mais moi, je prie surtout pour que les Camerounais ne viennent même pas, ne le calculent même pas, en fait.
Ouais.
Surtout ça.
Merci, en tout cas, messieurs. Bon, du coup, Philippe, rien à rajouter.
Non, j'abonde complètement dans leur sens. Voilà, ouais, complètement.
Super. Du coup, on va se faire une petite virgule avant de revenir. On va faire un point sur le mercato, simplement. On va faire un gros point sur le mercato. On revient juste après. Le Roy Sané, qui a joué dernièrement hier son dernier match avec le Bayern, qui part libre à Galatasaray, hein, tout simplement. Galatasaray, quel choix. Cherki, qui a signé à Manchester City, qui a déjà fait ses débuts. Trent Alexander-Arnold aussi. Hussein aussi, qui a fait ses débuts. Et bien évidemment, Xabi Alonso aussi avec le Real. Mastuono, c'est ça le nom.
Je ne sais plus, Mastuono.
Oui. Ouais, en tout cas, la pépite argentine qui arrive du côté de River Plate. Ouais. Hein, ils l'ont laissé pour l'instant jouer la Coupe du Monde des clubs avec River Plate, mais River Plate sont éliminés. Du coup, il ne va pas tarder à rejoindre, après les vacances, sûrement le Real Madrid. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces points, hein? On a abordé déjà Paul Pogba. Bon, Philippe, tu pourras nous dire deux petits mots sur ton ressenti par rapport à Paul Pogba. Ansu Fati, qui va arriver aussi du côté de Monaco. Franchement, on a pas mal, ça bouge pas mal, hein, de tous les côtés, ça bouge pas mal. Et ça chauffe aussi pour un latéral côté Bantemont au Paris Saint-Germain.
C'est un jeune.
Oui, un jeune. Oui. J'ai plus son nom.
J'ai pas entendu transfert.
Ça a chauffé, mais
moi, j'ai entendu Zabarny,
ouais.
Le défenseur central ukrainien, mais que ça a bloqué par rapport à Safonov pour les conflits russes-Ukraine. Mais sinon, concernant le Roy Sané, il a intérêt de se remettre la tête à l'endroit, parce que le nombre d'occasions qu'il vendange avec le Bayern et les prestations qu'il fait avant d'aller à Galatasaray, j'espère qu'il va se réveiller en allant là-bas, parce que je pense, lui, il pense que ça va être l'Eldorado. Mais s'il fait les mêmes prestations, les supporters, ils vont vite le prendre en grippe.
Il n'a pas compris ce que c'était que la Turquie.
Parce que je pense qu'il ne sait pas dans quel guet-apens il s'est foutu. Ouais. Parce que là,
En fait, avec le salaire proposé, 12 millions.
Il a quasiment le même salaire qu'au Bayern.
Un peu plus.
Mais je te promets, les prestations qu'il fait avec le Bayern, c'est catastrophique.
On a pu voir même le face-à-face loupé à la dernière seconde.
C'est honteux. Il est honteux.
Mais le match d'avant, il rate trois face-à-face.
Oui.
J'ai dit, mais il est... Et quand la caméra le fixe, et en fait, c'est en mode « je m'en fous ». J'ai raté.
Ça fait un moment qu'il a ce comportement de je m'en fous un peu là.
Un joueur comme ça.
C'est depuis City là, depuis je l'ai.
Franchement,
avant City, là, il était en Allemagne.
Il était en Bundesliga déjà.
À Schalke. Non, à City, il était encore. Mais sur la fin, là, quand il commence à partir, là, avec les embrouilles avec Mané, les histoires.
Oui, au Bayern.
C'est aussi l'embrouille avec Mané, elle est City,
c'était au Bayern. C'est depuis qu'il est arrivé au Bayern plutôt là. Moi je le vois trop depuis qu'il a perdu sa place de titulaire là, parce qu'à un moment il était en foulée avec Gnabry. À un moment il y avait une saison où ils étaient en pétard. Mais après ce pic là, j'ai l'impression qu'il est en mode je m'en fous. Depuis l'embrouille avec Mané là, depuis les histoires, l'extra sportive.
C'est honteux.
Je reconnais plus le Sané que j'ai connu moi à City ou à Schalke à ses débuts.
Mais et même pour la sélection allemande, c'est pareil. Hein.
Drôle de choix, quand même.
Il est honteux, il n'est même pas titulaire. Et quand il est titulaire,
c'est jeune encore, lui.
Ouais.
Tu l'aurais vu de quel côté, Philippe?
de quel côté on l'aurait vu, encore dans un club allemand. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
ah oui, après le Bayern, tu penses que tu peux encore faire un club allemand?
Moi, je pense pas.
C'est très compliqué quand même.
Dortmund, des clubs comme ça. Francfort, Dortmund, oui, voilà, des clubs comme ça.
Mais au moins, tu restes dans un des cinq grands championnats. Voilà, qu'il aille à Monaco.
Non, mais Galatasaray, il va pas progresser.
Après, moi, j'aime bien le championnat turc, donc je suis pas objectif.
Ouais, bon, enfin,
95, lui, non
tu sais que, mine de rien, championnat turc, ça se bagarre en tête de championnat entre les trois.
Les deux mêmes clubs.
Non, les trois.
Ah bon, Galatasaray.
Non, Fenerbahçe a fait une énorme saison la saison d'avant.
Ah ouais, 29.
C'est juste que c'est un choix surprenant, en fait.
Oui, c'est ça.
En fait, c'est un choix surprenant, mais c'est un choix d'image de sa carrière.
Il aurait pu continuer
un
club allemand.
Je pense que c'est un joueur qui est mal entouré.
Il aurait pu retrouver un challenge.
Ouais.
Non, mais je pense que c'est un joueur qui est très mal entouré.
Même le Bayern aussi ont mal géré le fait que Leroy Sané parte gratuitement aussi.
Mais comment tu peux gérer un joueur comme ça?
Et même, tu vois, t'allais gratter quoi? T'allais gratter quoi?
Ouais, c'est ça.
Non,
Là, valeur marchande à peu près, elle a 30 millions. Tu
non,
peux
jamais.
Non, il y a personne qui met 30 millions sur
un
lui,
avant,
je pense.
Un an avant, ils auraient mis leurs 20 millions au max.
Là, Galatasaray, ils mettent le paquet parce que.
Au moins, tu récupères un peu, même si tu récupères le salaire d'une de saison.
Ouais,
ça sert à rien.
Là, c'est compliqué. Là, tu laisses partir un joueur comme ça que t'as payé autant, tu laisses partir gratuitement.
Ah, c'est un mauvais pari, lui.
Ouais.
Non, mais
ouais,
c'est un vrai mauvais pari. Ouais. C'est...
Mais j'attends de voir Galatasaray. Franchement, je sais même pas s'il va faire une saison à 10 buts.
Tu sais, ça me fait penser à quelques joueurs. Ça me fait penser aux joueurs les Dele Alli. Là. Et ça
oui,
fait
ouais, ça, même lui, il s'est enterré. Les... Tu vois, c'est, ouais,
c'est les joueurs comme ça.
Commencé fort et là, il sait pas.
Après, ouais.
Ou encore, non, Dele Alli c'est pire hein, parce que Dele Alli n'a jamais rien gagné. Leroy Sané encore, il a gagné des Champions League.
Ouais, mais je parle au niveau du talent, moi, tu vois, au niveau des talents. Du
ah non, Dele Alli, mais
ce que je veux dire.
José Mourinho tirait la sonnette, il disait que si tu veux réussir et être dans les plus forts, il faut bosser, il n'y a pas de secret. Et que même si tu as ce talent-là, si tu ne bosses pas, tu ne pourras pas arriver à ce niveau-là.
Ce que je veux dire, c'est des mecs qui sont à pratiquement la même génération et c'est des mecs qui nous ont fait vibrer au départ et quand tu vois la fin. Tu dis, on parle de fin, les mecs sont même pas censés être sur la fin, ils sont censés être à leur pic de leur carrière. Et c'est ça qui est triste.
T'as ça qui est sur la fin.
Non, mais après, il va dans un club qui tourne bien.
Franchement, tout le monde, aux Imen.
Détrompez-vous, Galatasaray, c'est quand même un bon club de foot.
Non, c'est un bon équipe en Turquie.
Mais de là, est-ce qu'ils vont aller gagner la Ligue des Champions?
Ça joue dans la Ligue des Champions, Galatasaray.
Ouais, mais regarde, là, cette année, c'est en Europa League.
Ouais,
c'est parce que c'est honteux. C'est parce qu'en Turquie, il y a un club seulement qui se qualifie.
Parce que pour moi, c'est. En Europe, c'est éteint.
Turquie, ça a baissé par rapport à avant. T'as vu, tu fais un marché au Galatasaray.
Oui, non, je suis d'accord que ça a baissé.
Mais maintenant, tu les vois même plus.
Regarde, même Fenerbahçe avec leur recrutement XXL l'année dernière, ils sortent contre Lille.
Ouais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère voir un joueur qui va à Galatasaray, qui va dans le championnat turc, qu'un joueur qui va en Arabie Saoudite.
Ah oui.
Mais là, je vais aller des champions qui sont en Arabie Saoudite.
Regarde, tout à l'heure, t'as dit Arabie
Saoudite, c'est la retraité.
Et là, tu t'as dit Gerson.
C'est la retraité, excusez-moi, mais moi, j'ai vu des joueurs. Comme N'Golo Kanté revenir
et pourquoi ils partent tous pourquoi ils partent tous d'après toi pourquoi ils partent tous
pour l'argent
mais là lui il va pourquoi ils quittent les clubs Arabie Saoudite
pourquoi ils quittent les clubs Arabie Saoudite
pourquoi ils partent
mais il y en a qui viennent
parce qu'ils veulent faire une coupe du monde et il y a un niveau qui est plus relevé ils veulent faire une coupe du monde le seul qui reste parmi les grands joueurs c'est Kanté pour l'instant
et il y en a qui viennent parmi les grands joueurs
oui mais t'en fais pas que Cristiano il veut partir justement parce qu'il veut faire une coupe du monde
il veut faire une coupe du monde
il peut partir.
Non, il a prolongé jusqu'en 2027 pour un salaire de 200 millions.
Il voulait partir alors. Il voulait partir.
Attention.
D'ailleurs, on va. Je vais vous rappeler les chiffres monstrueux sur lesquels il est.
Oui, mais après Christian, il a été.
L'Arabie, faut pas la Coupe du Monde.
Il a peut-être essayé, il a rejoué parce qu'avant il voulait partir.
Cristiano Ronaldo, qui a signé pour 208 millions d'euros par an. Ça fait à peu près
mais lui, c'est pour les
16 670 000 euros par mois, 3 888 000 euros par semaine, 555 555 par jour, 23 150 par heure, 386 euros par minute, 6,50 euros par seconde.
C'est honteux.
Messieurs, 6,50 euros par seconde. Chaque seconde, il y a 6,50 euros qui
s'accumulent.
Et on parle juste du club. On parle pas de ses sponsors et de ses business qu'il a autre part. On parle juste.
J'arrive pas à savoir s'il a fait autant rapporter que ça à Nasser.
Et aussi.
Je pense la vente de maillots et tout là-bas, ça doit exploser.
Même pas que à Al Nasser. Au championnat
saoudien.
Ouais.
Il a bien sûr que rentabilisé plus que tout ça. Tu vois tous les joueurs aujourd'hui débarquer avec cette facilité-là.
Oui, c'est parce que lui, il est allé.
Oui, c'est parce qu'il est allé. Il a passé le grand pas. Sinon, avant lui, tu peux citer aucun joueur qui jouait en Arabie Saoudite. Tu parlais un peu du Qatar.
Si, si, il y avait celui qui jouait dans son équipe et qui est parti. Comment il s'appelle?
Talisca.
Oui,
Talisca. Talisca, il est parti aussi à cause de...
Non, non, c'était... mais je crois que c'était un Camerounais.
Vincent Aboubakar.
Oui, bah, c'était Vincent Aboubakar.
C'était Vincent Aboubakar qui était.
Et mais, après, il est parti
Oui, mais franchement, Vincent Aboubakar, il a joué dans quel championnat européen où tu te souviens de lui?
Non,
mais
Porto. Mais
par exemple, c'est un grand joueur.
Mais par exemple, regarde sur le côté Talisca.
Ça ne fait pas repartir des 5 grands
championnats. Regarde par exemple sur le côté Talisca. Ce qui faisait briller Al Nassr, c'est plus Talisca que Ronaldo.
Oui.
Mais comme. Il y a un peu, faut pas créer de l'ombre à la statue. Talisca, il avait moins de minutes. Ils ont commencé à l'évincer. Ils ont pris l'autre Duran à sa place pour faire en gros, on renouvelle un peu les joueurs autour de Cristiano. Mais sinon, Talisca, c'était un but par match.
Il était bon joueur, hein, Talisca.
Il a fait une saison à 25, 26 buts. Je rejoins
là déjà un peu là, sur la première saison où il arrive avec Cristiano. Même les boys d'El Nassr, je les vois un peu
Moi, je te parle
en Europe, je te parle pas en Asie.
Moi, j'ai jamais vu.
En Europe, tu vois plein de petits avec des maillots Ronaldo. El Nassr, je connaissais même pas, moi, avant que Cristiano il y aille. Et derrière, ça a fait. Et je sais que l'Arabie Saoudite, ils veulent récupérer la Coupe du Monde, je crois, 2030.
Oui, mais c'est pour ça. Il la récupère, je pense que c'est bien parti.
C'est les joueurs en fin de carrière,
c'est une sorte de publicité. Quand
il fait deux matchs bien l'Euro, il s'écroule le troisième, donc voilà.
Il a été moins bon l'année dernière.
Il a fait deux premiers matchs.
Il a fait des masterclass, même s'il en fait qu'une seule.
Il a été moins bon sur l'euro. Les deux premiers matchs énormes, mais après, il a eu un euro plus difficile.
D'accord, mais qui a pas eu un euro difficile?
Oui, je sais bien. Je sais bien.
Et qui a fait des masterclass dont il a fait?
Je sais bien que l'année dernière.
Ils jouent tous dans les grands championnats. Mbappé n'a pas fait une seule masterclass.
Mais je suis pas sûr que s'il avait été dans un club. S'il avait été dans un club européen, il aurait peut-être fait tout l'euro en entier.
D'habitude, je suis d'accord avec toi, mais je suis désolé. Ouais, ouais. Tu peux pas tirer comme ça sur N'Golo Kanté.
Non, je tire pas sur Kanté. Je tire sur le championnat d'Arabie Saoudite.
Le championnat d'Arabie Saoudite.
Voilà, c'est pas sur Kanté que je tire, c'est sûr. J'ai trop de respect pour Kanté. Mais c'est sur l'Arabie Saoudite que je tire sur le championnat. C'est pas non plus. Voilà.
J'ai vu de mes yeux dans mon œil. C'est ce qu'il a dit Youssouf Fofana après le match de N'Golo Kanté. Vous imaginez quand même.
J'ai beaucoup de respect pour Kanté, mais je pense qu'il mérite mieux d'aller jouer en Arabie Saoudite. Voilà.
Ok, ça reste ton avis, on le respecte bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé de Cherki qui signe à Manchester City?
Je vous le dis. C'est la marche de progression, ça.
Je pense qu'on va avoir un monstre d'ici quelques mois. Allez, un an, là, on va avoir un monstre.
C'est dans la logique des choses.
On va faire quelque chose. Et même, pas que Cherki, même Aït Nouri.
Aït
Nouri.
Il m'a choqué.
Moi, depuis Angers, je l'ai vu à Angers. J'ai vu un match, j'ai dit, mais c'est qui ce mec-là? Et à moi, j'ai même signé au PSG. Je militais pour qu'il signe au PSG. Et au final, il est parti à Wolverhampton. Et là, je le vois à City, j'ai bien mal. Mais les deux là, Cherki et Aït.
Et Renders aussi. Hein.
Les l'année prochaine, même Marmouche là, ça va leur faire du bien là, les devant là, Cherki, Marmouche, Haaland et Silvinho un peu là qui nous fait encore le Mahrez un peu, mais ça va être intéressant si tu y regardes. Et Cherki franchement, bon choix moi je trouve.
Après je pense que la venue d'Aït Nouri et aussi pour pousser Doku à prendre plus de décisions à l'entrée de surface. Tu remarques bien que depuis que Aït Nouri est là...
Jason, tu peux te rapprocher un peu.
Tu remarques bien que depuis Aït Nouri qu'il est là, ben en fait, Doku prend plus d'initiatives offensives. C'est-à-dire qu'il rend beaucoup plus intérieur. Alors qu'avant, il prenait tout le temps extérieur, il faisait ses chichis vers le poteau de corner, essayer d'éliminer, de centrer.
Il dédouble.
Mais là, Aït Nouri, il dédouble, il dribble, il rentre intérieur et ça combine. Et ça permet aussi à Doku de... Si tu remarques bien, depuis le début de la compétition, je crois qu'il a été décisif 2-3 fois. Et alors que d'habitude, c'était Ake qui était un défenseur gauche, ça veut dire qu'il ne monte pas beaucoup. Il reste derrière et au final, ça veut dire que Doku, il doit prendre la balle du côté et traverser tout le long. Et là, on commence à avoir un nouveau Doku et à être nourri aussi. Il m'a étonné. Et Cherki, petit à petit, il a fait des petites entrées. Bon, la deuxième entrée, elle était moins bien.
Le premier match, c'était plus
le premier match, il a été bon.
Le premier ou le deuxième là.
Il est rentré vers la fin. Après, il m'a mis le même petit pont. Je crois.
Non, ça c'était contre la Juve, il met le petit pont, je crois. Non, mais le premier match, je crois, on l'a pas vu du tout dans le match. Hein.
T'es sûr?
Le premier match,
il a joué, je crois, il était titulaire d'entrée.
On le voyait pas dans le match.
Ah,
on l'a pas vu dans le match.
Non, il avait fait un mauvais match. C'est le second match alors.
Ouais, c'est pour ça.
Mais en plus, je trouve ça bien parce que c'est une équipe jeune. Hein, du coup, City est là parce qu'ils ont recruté pas mal de jeunes. En plus, il y a Omar Marmouche aussi qui est là. Haaland aussi qui est toujours là. Franchement, ils ont besoin de renouveau. Après, Cherki, moi, dès le départ, quand j'ai vu ça, j'ai été. Je dirais pas déçu, mais en fait, j'aurais préféré le voir dans un autre club. Mais sauf que je voyais pas d'autres clubs non plus capables de mettre de l'argent comme ça.
Est-ce que tu as un autre club qui peut l'assumer comme Pep Guardiola? C'est ça que je me pose.
Non, moi je parle de jouer au football.
Pour City, je trouve que c'est une bonne chose, mais je sais pas, moi j'aurais préféré voir
De Bruyne qui peut prendre la place là.
Bien sûr. Non, c'est De Bruyne pour moi. C'est un club qui va faire bien pour lui.
J'aurais préféré le voir autre part.
Même c'est un genre de football, ça. Ouais.
Pour moi, il doit jouer en Espagne, Cherki. De jouer à Barcelone.
Oui, mais même en Angleterre.
C'est le côté du Barcelone, mais après Barcelone, ils ont déjà Olmo.
Oui, c'est
bah,
oui.
Après, là, si tu vas à City, c'est plus par rapport à Pep Guardiola, le football, etc.
Après, ce qui est sûr, c'est qu'il va progresser, je pense, à vitesse grand V. Je vois, il y a beaucoup de vidéos qui tournent. Il a une affinité technique avec Phil Foden, etc. Ça va se bagarrer pour avoir la place, mais je pense que c'est un joueur qui va vraiment progresser. Et que voilà, je pense qu'il a vraiment pris en maturité cette année-là. Parce qu'il a commencé quand même très jeune, à 16 ans. Ça fait longtemps qu'il est dans le jeu, Cherki. Et il a mis du temps à...
Après, lui-même, il a dit. Il a fait beaucoup d'erreurs.
Voilà, c'est ça.
Et petit à petit, il apprend, il se forge.
Il est très jeune, voilà. Et là, il est encore jeune. Il a 21 ans, il va avoir 22 ans. Et il est à City. Je pense que c'était la bonne année pour lui de partir de l'Olympique Lyonnais et d'aller faire une expérience à l'étranger. J'aurais même peut-être... aimer le voir à Paris, mais bon, il y a beaucoup de joueurs, ouais, c'est pour ça que...
Après, dans le système de Paris, ça aurait été compliqué parce que ça demande de beaucoup courir. Et c'est pas un mec qui peut répéter les courses autant qu'il est au milieu.
Après, Guardiola, il demande aussi à ses joueurs de presser pas mal.
Oui, mais
c'est
pas le même pressing. T'as vu Paris, le pressing tout terrain qu'ils font. C'est pas la même chose quand tu vois Neves et Ruiz.
Je te rappelle qu'à l'origine, le pressing de Paris, c'est Guardiola qui l'a fait. Je dirais même que c'est Cruyff qui l'a fait, mais c'est Guardiola. Donc c'est
quand tu vois les deux équipes quand elles se sont affrontées, qui pressait qui le plus?
Mais oui, mais c'est parce que c'était une équipe qui était en méforme. City, souviens-toi du City de 2023, comment ils pressaient.
Oui, mais quand tu regardes le City, c'est pas le même pressing qu'un Paris Saint-Germain. Quand tu vois le Paris Saint-Germain, c'est un pressing agressif. City, c'est un pressing de position. C'est-à-dire qu'en gros, tu viens, tu montres à la personne que tu es là. Mais le Paris Saint-Germain, si tu regardes bien, il te chippe la balle. C'est eux, ils viennent pour t'agresser. C'est pas le même pressing.
Je suis pas à 100% d'accord.
Regarde le nombre de balles qu'on perdu, par exemple, l'Inter Miami, admettons. Quand tu vois le pressing, quand ils y vont, c'est pour choper la balle. C'est pas juste pour dire je suis présent, je te mets la pression.
Ah non, mais le PSG, c'est je sais pas comment t'expliquer. C'est...
Enfin,
cette
année, oui.
J'ai vu le Barça avec la règle des
inarrêtable.
Secondes.
Inarrêtable.
Même au bout du PSG actuel. Parce que moi, là, ce qu'il dit, moi, je le rejoins. Il peut pas être compatible avec le jeu du. Du Paris Saint-Germain.
Ryan Cherki
Sans ballon, je te parle. Dans l'attitude, son ballon, je sais. Tu l'as déjà vu faire des longues courses de
Je suis pas d'accord. Vous savez pourquoi je suis pas d'accord? Parce qu'à l'origine, Dembélé, quand il est arrivé, on disait qu'il allait pas être compatible avec.
Mais non,
avec
Dembélé, il court. Dembélé court. C'est un gars qui court.
Il a toujours, même à la Coupe
Dembélé, du Monde. Dembélé, il court.
Bah oui. Dembélé, il a toujours couru.
Même à la Coupe du Monde 2022, le
mais il a toujours couru. Mais oui, à la Coupe
du Monde. Je me suis tapé Dembélé. Pendant 6 ans, je me suis tapé Dembélé à Barcelone. Ça devient inutile. Les gars, il ne courait pas, non.
Mais il a toujours couru, Dembélé.
Ça dépend dans quel système tu l'employais aussi.
Quand il fallait courir, il courait.
Il courait,
bien sûr.
Quand il fallait courir, il courait.
Et même à Barcelone, quand il était côté droit, là, quand il faisait ses accélérations sur le côté.
Avec ballon.
Ouais, mais il courait.
Là, on parle sans ballon.
Même sans ballon.
Il courait, sans ballon.
Mais avec ballon, bien sûr qu'il court. Mais moi, je te parle sans ballon.
Ah, il courait.
Il faisait des retours.
Je suis persuadé que, en tout cas, Cherki, si tu le mettais dans le système de Paris, Lucien Riquet.
Pour moi, il n'aurait pas fonctionné.
Non, non.
Après, encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose qu'il soit à la City.
Il n'a pas fonctionné, mais. Il aurait eu.
Non, sur le pressing.
Il connaît les joueurs avec qui il est. Il y a une affinité technique qui serait créée.
Mais c'est pas une question de connaître.
C'est pas connaître là.
Je te parle en termes de course, même en termes du gabarit de Cherki. Son gabarit, c'est pas un gabarit pour multiplier les courses à haute intensité. Tu vois, quand tu vois le milieu de terrain de Paris, tu vois bien que c'est des mecs. Voilà, c'est des mecs qui sont faits pour la course.
Non, mais Cherki, c'est un mec qui est fait pour jouer. Je vois très bien ce que vous voulez dire. mais je pense qu'il se sera adapté.
Ah, je pense qu'il sera adapté dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Quand tu vois un mec comme Neves,
moi tu le mets pas dans le milieu à 3, pour moi tu le mets ailier.
Ah non,
tu peux pas le mettre dans le milieu à 3, c'est impossible.
Il y a trop de
c'est pas un ailier de percussion.
Tu vas te faire mal à la tête.
Pour moi, tu peux pas le mettre dans le milieu à 3.
Si tu le prends, tu vires un Barcola, ça veut dire.
Mais regarde sur une contre-attaque.
Il aurait été en mode Messi dans le Barça 2015, par exemple.
Mais sur une contre-attaque, Cherki, ça veut dire que si tu le mets ailier sur une contre-attaque, il te ralentit tout. Là, tu vois bien que Paris, la force, et les ailiers aussi sur les contres.
Les contre-attaques.
Ah oui.
Un Barcola, ça part
de là. Jamais Cherki prend la vitesse d'un Barcola ou d'un Doué ou d'un Xvara. C'est
ouais,
pas possible.
Ça, c'est pas faux. Ouais.
Et en plus, t'as un Doué, c'est limite le même type, le même style de jeu que Cherki avec plus d'explosivité.
Ouais, voilà, il court. Ouais,
avec plus de course.
Ah oui.
C'est le même style de jeu.
C'est le même style de jeu.
Excusez-moi, on va juste poursuivre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez du recrutement de Huchen, de Xabi Alonso, hein, qui a été officiel? On n'a pas pu s'exprimer là-dessus. Et Trent Alexander-Arnold aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Philippe? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Xabi Alonso, de toute façon, il faut que le Real fasse quelque chose. Est-ce qu'il va réussir à coordonner tous ses talents qu'il y a? Ça va être la grosse difficulté, quoi. Voilà, donc là, c'est... Je sais pas. Ancelotti n'a pas réussi. Est-ce que Xabi Alonso va pouvoir le faire? Je sais pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais
Pour l'instant, Huchen lui fait des bonnes prestations. Tu le vois même à la relance.
Oui.
Il fait des bonnes prestations. Après, moi, comme la dernière fois, on t'avait dit avec Alexandre, son acolyte qui l'ont mis avec lui, c'est pas une grande aide.
Ascensio.
Moi, je l'avais dit sur ce plateau aussi.
Voilà. Ah oui. C'était pas une grande aide qu'il a à côté de lui. Donc,
avec Rüdiger, c'était mieux.
Ouais, avec Rüdiger, c'était mieux. Un peu d'expérience.
Il fait un début de saison, un début de compétition catastrophique.
Il faut un peu d'expérience, mais mettre les deux jeunes ensemble, je pense, ça va être très compliqué.
Ouais.
Si tu lui mets un mec d'expérience.
Non, avec Eder Militao qui va bientôt revenir.
Mais même lui, je sais pas à quel niveau il va revenir. Parce que même les derniers, avant qu'il se blesse, c'était pas non plus l'assurance touriste. T'as l'impression qu'il jouait sur une jambe.
Ouais, donc, après, il revenait de blessure, il a pas beaucoup joué.
Ouais, mais c'est pour ça. Est-ce qu'il va revenir guéri à
100%? Et là encore, il revient de blessure. Hein,
Et en tout cas, je suis un peu d'accord avec Philippe dans le sens où faut encore attendre Xabi Alonso. Franchement, faut attendre. Après, c'est une stratégie agressive ce qu'ils font le Real parce qu'ils ont recruté quand même pas mal. Là, en plus, j'ai vu Carvajal qui va un peu revenir. Mais qui va revenir là pour le prochain match. Il est apte à jouer en tout cas. Je sais pas s'il est inscrit. Mais ça va être vraiment compliqué de faire jouer tous ces joueurs ensemble. Pour moi, dans la ligne d'attaque, il y a un joueur qui doit partir, qui doit être sacrifié.
Apparemment, je pense que ça va être Rodrigo.
Malheureusement, oui, c'est ça. Ça va être Rodrigo. Alors qu'il fait peut-être avec Bellingham la meilleure saison des quatre.
Ouais.
Enfin, non, il y a Marco aussi qui fait une bonne saison. Non, mais Rodrigo, en tout cas, pendant un moment, dans les matchs importants, il était vraiment très présent.
Mais il fait pas une meilleure saison que les autres.
Ouais. Mais c'est vrai, il marque des buts importants, mais il est pas constant.
Pas une meilleure saison que les autres, mais en tout cas, c'est vraiment un bon joueur. Et faire jouer les tous ensemble, ça va être vraiment compliqué. Ouais. Sachant qu'en plus de. Je crois qu'il a pour plan de. Il aime beaucoup Arda Güler.
Ouais, il aime beaucoup Arda Güler.
À un moment donné, il va falloir faire. Non, moi j'adore. Ça, il pue le foot, Arda Güler. Mais il va falloir faire des choix.
Il fait des bons matchs d'ailleurs.
Mais tu vois, est-ce que tu vois Arda Güler dans. Là, on parlait de volume de jeu tout à l'heure. Dans un milieu à 3, Arda Güler, je pense que ça va être un peu compliqué. Tu vois.
Non, moi je le vois dedans.
Tu le vois dedans en termes d'effort défensif et de volume de jeu.
Je le vois, oui, en termes de volume de jeu. Je le vois déjà en tant que créateur déjà.
Et en plus, ça veut dire que ton patron de milieu assumé, ce sera Tchouaméni.
Mais Bellingham, je le mets où?
Bellingham, tu peux le mettre.
Pour
Bellingham,
moi, tu peux pas mettre Arda Güler et Bellingham. Non, ouais,
on l'a vu, en tout cas, ça s'est fait.
C'est-à-dire que ton patron du milieu, ce sera qui? Ce sera Tchouaméni? Ou ce sera Valverde? Parce que tu peux pas mettre et Valverde et Tchouaméni et Arda Güler et Bellingham et Mbappé et Vinicius.
En tout cas, Arda Güler, tu peux le mettre à droite à la place de Rodrigo. Donc si tu vends Rodrigo, tu sais que. T'as Arda Güler qui pourra s'adapter
un peu partout.
Mais je
pense qu'il va plus l'utiliser au cœur du jeu.
Aussi.
Arda Güler, ouais, c'est là qu'il est intéressant.
Il est plus intéressant au cœur du jeu que sur un côté.
Bien sûr.
On va se faire une petite virgule avant de revenir très rapidement sur Lamine Yamal. Hein. On a pu voir ces polémiques autour de lui. Hein. Quel avenir pour Lamine Yamal, en tout cas, on peut penser. Et franchement, ça commence à faire beaucoup parler les médias, en tout cas. Et lui qui facilite pas aussi certaines choses. Hein. Du coup, on va y revenir juste après. Lamine Yamal, au cœur de la polémique. Hein. Lamine Yamal, lui, on a pu le voir s'afficher avec une actrice
Pour adultes.
Pour adultes, oui, s'afficher avec elle. Et maintenant, il démente un peu. Voilà, et à la 30 ans, il a 17, il démente un peu, il n'y a pas de relation, il y a une relation. Lamine Yamal qui disait vivre avec sa mère, finalement, il vit seul. C'est ce qu'elle a déclaré. Hein. Je suis allé chez lui seul, il ne vit pas avec sa mère, il vit seul.
Après, voilà. Il a 17 ans, donc.
Oui,
il a,
et maintenant, il passe ses vacances aussi avec. Non, il peut ne pas passer ses, il peut ne pas vivre avec sa mère, hein, crois-moi. T'as 17 ans, mais t'es millionnaire quand même. Ouais, c'est pas pareil. Tu peux avoir des hommes et des femmes à tout faire un peu à chaque endroit. Et aussi, on l'a vu faire ses vacances avec Neymar. Hein. Aussi, est-ce que ça va pas devenir un petit fêtard un peu comme Neymar et
ça ne l'est pas déjà.
Après, moi, ça me choque même pas. C'est la génération d'aujourd'hui. Franchement, ça me choque même pas. Génération réseau.
Non, mais
TikTok.
C'est pas une histoire de choquer. C'est une histoire de.
Non, mais c'est que. J'ai l'impression que même quand, par exemple, tu vois avec Nico Williams, t'as l'impression que pour eux, c'est normal. C'est... En fait, j'ai l'impression que je pense que c'est générationnel. Ceux d'avant se préservaient de tout ça, ouais. Mais ceux d'aujourd'hui le montrent. Et si tu remarques bien, maintenant, même les footballeurs qui sont millionnaires sont sur Snap, sont partout.
Ouais,
j'ai l'impression qu'ils ont besoin de ça pour se montrer, mais ils ne se rendent plus compte que les réseaux...
On est tous d'accord avec toi, mais c'est pas bien.
Oui, moi, je ne dis pas le contraire, mais c'est la génération d'aujourd'hui.
Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas bien, quoi.
Mais c'est
ils
la génération
pas compte que c'est pas bien quoi. Ouais,
c'est la génération d'aujourd'hui pour
c'était
eux c'est normal.
Comme, ouais, c'était comme le PSG qui avait fait une fête il y a quelques années, Neymar trois jours ou quatre jours avant un match important, il s'était montré. Non mais c'est vrai. Ils s'en rendent pas compte.
Mais ils moi rendent ça, pas compte. Ça c'était ma crainte dès le départ, je l'ai dit.
C'est dommage parce que
tous mes proches, j'ai dit deux choses, j'ai dit j'espère que les blessures vont l'épargner et j'espère que parce qu'il a déclaré plein de fois que son idole c'était Neymar. J'espère qu'il n'allait pas suivre le même pas que Neymar. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est son entourage. Et quand tu vois son père,
c'est peut-être là le problème.
Tu comprends beaucoup de choses. Après, bon, on n'est pas là pour juger finalement. Tu peux comprendre certaines choses. Mais moi, je l'accuserais lui et j'accuserais aussi les deux camps. J'accuserais aussi les gens qui l'affichent.
Ah bah surtout.
N'oubliez pas qu'il a 17 ans.
Oui, surtout. À 17 ans,
souvenez-vous. Où on était tous à 17 ans.
Oui, non, mais je suis d'accord.
Imaginez, on devient multimillionnaire avec. Avec des dizaines et des dizaines de millions d'abonnés en l'espace de quelques mois, avec tout le monde, toutes les filles qui viennent, etc. À 17 ans, au bout d'un moment, il faut se mettre aussi dans... Et c'est très, 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 très dur
de rester... C'est
pour ça
qu'il faut être très bien entouré.
Voilà.
C'est
ça, mais comme
et c'est très dur de rester l'épée sur terre.
Pas, mais par exemple, quand tu vois son père qui est très présent, que lui-même, t'as l'impression, est fêtard. Et montre, voilà, montre un peu qu'il profite, voilà. Pas qu'il profite, mais qu'en gros, qu'il montre que son fils, c'est bien, il y a mal, c'est... C'est pas le protéger, c'est plus regarder en fait.
Ouais.
Et lui, le petit, il n'y a personne qui le met à l'abri, même sa mère, tu vois. Ils font des TikTok ensemble, ils dansent ensemble.
Son père
C'est bon, tout réseau, c'est tout montré. C'est...
La mère 36.
Et même par exemple, tu vas voir son demi-frère qui rentre sur le terrain. C'est filmé, tout est montré.
Alors, c'est... alors qu'il a 4 ans.
Ouais, c'est... Pas, exactement. J'ai l'impression que le petit, je le connais, mais je le vois des fois plus que Yamal.
Ouais,
c'est tout en présent.
Sa photo de profil,
c'est la nouvelle génération. C'est sûr,
c'est vrai.
C'est
la raison qu'il y a la génération.
Mais
il
faut que tu fasses attention. Et moi, ça me surprend qu'un club comme le Barça, pour l'instant, laisse autant de liberté, et même la sélection espagnole.
Qu'est-ce que tu veux lui dire à Yamal?
C'est ça.
On peut rien lui dire aujourd'hui.
C'est
lui qui les sauve un peu.
Bien sûr.
Ah si, si. Il les sauve. Même au niveau financier, c'est lui qui les sauve aujourd'hui.
Oui, je suis d'accord. C'est juste que quand tu connais le système qui est la Masia et la manière dont ils forment leurs joueurs, c'est assez surprenant de voir un joueur avec autant
lui,
de liberté.
Mais il a pris le dessus sur la Masia.
Bah oui, sur une pépite.
Ils veulent pas se le mettre à dos.
Bah oui, il a pris le dessus sur la Masia. Ils savent qu'il peut se retourner et dire
faire
une Luis Figo, hein, parce qu'on a vu même des dernières vidéos où il était supporter du Real, où il recevait le maillot de Ronaldo et il parlait par rapport à ça. On a vu son père qui est supporter, il a dit oui, mais ce n'est pas le Real qui me donne à manger, c'est le Barça, du coup, vice-versa.
Oui, parce que regarde,
tu vois, mais il a assumé.
Le Barça, ils sont conscients, ils savent que. Un petit jeune comme ça, qui est inconscient. Imagine, tu te le mets à dos. Paris, ils viennent, ils mettent une enveloppe.
Bah, bien sûr.
Le petit, il va dire quoi? Ah,
bien sûr.
Mais moi, je pars.
Bah, bien sûr.
Je suis d'accord avec toi, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, mais tant que tu l'as dans la poche, en fait, Mais
ça veut pas dire que tu dois le laisser faire n'importe
quoi. Mais en vue de la position du club, c'est surtout ça. Aujourd'hui, il serait au Real, il serait jamais permis de faire tout ça. Mais là, il est au Barça.
Le Barça se relève à peine.
Ils vont payer ce qu'ils doivent à Messi la semaine prochaine. C'est ce qu'il disait la semaine prochaine. Vous imaginez quand même.
Ne vous inquiétez pas pour le Barça, ils ont des finances.
Oui, après, ils ont beaucoup de dettes aussi. Mais oui, heureusement qu'ils sont pas en France, en tout cas, parce que la DNCG les aurait rétrogradés, je pense, même en national, ça aurait été compliqué. Il reste 3 petites minutes. Hein. On va tout simplement enchaîner avec le quiz, hein, le fameux quiz. Ça va être parti, Jason, quand tu veux, les téléphones sur la table, s'il vous plaît, messieurs. C'est parti. Première question, qui a marqué un doublé pour l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions 2019?
Milito,
on va te l'accorder, Alexandre. Voilà. C'était à quelques.
Devant, supporter de l'Inter.
Moi, j'ai dit un vrai nom et non.
Désolé.
Contre le Bayern en 2010.
Qui a égalisé pour Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2005?
Mané. Ah, 2005.
Super finale en plus. La plus belle peut-être.
Xabi Alonso.
Gérard pour Jason, c'était bien lui. Unique but de la finale Coupe du Monde 2014.
Ah oui, c'est comme
ça. Ah, c'est Götze.
Non,
il est rentré en cours de match.
Götze, il est rentré en cours de match, c'est ça. Il est rentré en cours de match, il a marqué 1-0.
On va beaucoup parler de buteurs aujourd'hui, ça va être centré sur ça. Quel joueur a marqué un retourné en finale de LDC?
Bale.
Gareth Bale pour Jason. Jason et truc, il se livre à mano à mano.
On le sait, mais il est plus rapide.
2-2, voilà.
On le sait, mais il est plus rapide, c'est bien.
Il se livre à mano à mano. Salson, tu vas peut-être aller chercher ta première victoire.
Allez, c'est bien, on va aller chercher la première victoire. Pour enfin, non.
Ok. Buteur français en finale de Coupe du Monde 2006.
Eh ben,
Zidane.
Ça, tu l'as donné.
Ouais, c'est moi.
Zidane.
La Panenka.
Ouais.
Magnifique.
Buteur en finale de la Ligue des Champions 2021, Chelsea vs City.
Havertz.
Kai Havertz, le but est un peu clownesque d'ailleurs.
Ils sont plus rapides, c'est bien.
Pour Alexandre qui prend les devants en 4 buts à 2. 4-2.
C'est bien. Hein.
Premier but de la finale Coupe du Monde 98.
Ah bah Zizou.
C'est bien ça, Zizou. Philippe. Buteur décisif en finale de la Ligue des Champions 1999.
Wow. Entre
Solskjær.
Ole Gunnar Solskjær.
Ah, il a un renversement de situation.
Ouais, contre le Bayern.
Ouais. Ah ouais.
Auteur d'un doublé en finale LDC 2015. Barça-Juve.
Oui. Ah, c'est Suarez.
Messi.
Suarez. Mais non,
vous avez donné chacun une réponse.
En finale de LDC. Il y a Rakitic. Mais il n'y a pas de doublé.
Vous n'avez pas.
Barça-Juve en 2015,
il n'y a pas de doublé, je connais les buteurs.
Tiens, mais il n'y a pas de buteur.
En 2015, je peux te les citer, les buteurs.
Barça-Juve.
3-1, le score.
Barça-Juve, ça va pas être Neymar, non?
C'est Neymar.
Rakitic, Suarez, Neymar.
Moi, j'ai Neymar. On y reviendra, mais moi, j'ai Neymar pour le doublé inscrit.
Non, je suis sûr de moi.
Seul buteur en finale LDC 2007, Milan vs Liverpool.
Shevchenko.
C'était la revanche, ouais.
En finale 2007.
Ouais, c'était la revanche, là.
Chelsea-Milan.
C'était le Milan AC qui avait gagné. Ils avaient pour la revanche de
Milan-Liverpool.
C'est pas c'est la
revanche. C'était la revanche de la finale d'hier. Inzaghi, 2 ans plus tôt.
Comment?
C'est lui, il a dit Inzaghi.
Inzaghi, c'est bien ça. Inzaghi, c'est ça pour Salson. Au moins, Salson a pris son point. Voilà. Tout le monde
C'est juste que les autres, c'est trop rapide. Sinon, les réponses, on les connaît.
C'est important de finir les fins de saison psychologiquement.
C'est important psychologiquement. C'est important. Alexandre est le grand gagnant de cette soirée.
Merci.
On va revenir, on va tout simplement se dire... une belle soirée et on vous souhaite de très bonnes vacances. On se revoit à la rentrée. On espère en bonne santé. Il y aura beaucoup de choses à dire avec la Coupe du Monde des clubs qui va arriver, etc.
Puis ça sera le retour des Coupes d'Europe quand on arrivera.
C'est ça. Ça sera le retour des Coupes
d'Europe.
On reprend quand ?
Et aussi la CAN qui va suivre, etc. Ouais. Franchement, pas mal de choses. En tout cas, on a passé une très belle saison.
Oui, et puis la Coupe du Monde l'année prochaine,
oui, la Coupe du Monde, on y sera. On y sera, bien évidemment.
Elle sera plus intéressante que celle-là.
On espère. En tout cas, merci à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, enfin auditeurs et auditrices plutôt. Oui, on aura les téléspectateurs et téléspectatrices, on espère, la saison prochaine. Tout simplement, une belle année. On vous souhaite de belles vacances et on vous remercie d'être tout le temps à votre radio, à votre téléphone pour écouter cette émission Au bout du foot.
Et vive le foot.
Et vive le football au bout du foot. Ouais. C'était tout simplement ça. Merci Jason, merci Alexandre, merci à Jay
Nage, pour ça. Ouais.
Merci à Philippe, merci à Salson. Et on vous dit tout simplement belles vacances et à très bientôt. Bonne soirée.
Hasta la vista.
Faith.